Il est 18h.
Les procédures n'aboutissent jamais, ou alors au bout de quelques années. Et ça, aujourd'hui, c'est intolérable.
Christophe Castaner sur le front des inondations cet après-midi dans le Var. Le ministre de l'Intérieur interpellé par les élus. La décrue a commencé. Le bilan est ce soir de 2 morts et 4 disparus. Et des millions d'habitants ont toujours les pieds dans l'eau.
À l'approche de la grève du 5 décembre, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, demande au patron d'être souple sur le télétravail.
L'affaire du chirurgien soupçonné de pédophilie pourrait prendre une nouvelle dimension. Joël Le Squarnec aurait exercé dans 18 hôpitaux et non 5 comme on le pensait jusqu'à présent.
On est au début d'une affaire qui est déjà vertigineuse, mais qui le sera un peu plus dans les semaines à venir.
Merci de votre fidélité. On est ensemble jusqu'à 20h sur Europe 1. Soyez les bienvenus.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et nous partons immédiatement dans le sud de la France pour commencer ce journal, Fabienne, et faire un point sur la situation sur le front des inondations. Ce soir, 2 morts et 4 disparus. Bilan établi il y a quelques instants par Christophe Castaner.
Une personne qui était tombée à l'eau au Muy lors d'une opération de sauvetage et un homme découvert mort dans sa voiture à Cabasse. Et donc, vous le disiez cet après-midi, Christophe Castaner s'est rendu au Muy dans le Var où il a reçu, on peut dire, un accueil très mitigé, Jacques Terrance.
Ah oui, et il n'a pas fallu 10 minutes après l'arrivée du ministre pour qu'il se fasse interpeller juste après avoir rencontré brièvement quelques sinistrés des inondations. Françoise Dumont, la présidente du service départemental d'incendie et de secours, et la maire du Muy, Liliane Boyer, lui ont incité sur le fait que bon nombre des 230 électroyages dans le Var ont été réservés au sauvetage de personnes hors la loi dans la plaine de l'Argence.
Ce sont des gens du voyage qui s'installent, ils acquièrent des terrains dans des zones inondables, et ils installent des caravanes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos pompiers se retrouvent à aller secourir des gens au péril de leur vie, des gens qu'on laisse s'installer dans des zones dans lesquelles ils n'ont rien à faire.
Je voudrais rajouter que les procédures n'aboutissent jamais, ou alors au bout de quelques années. Et ça, aujourd'hui, c'est intolérable. L'autre jour, on a sauvé 15 personnes sur le toit d'une caravane en pleine zone inondable. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment que la justice elle fasse son travail un peu plus rapidement.
Mais alors, vos remarques sont parfaitement légitimes. C'est effectivement des anomalies insupportables.
Voilà, Christophe Castaner a donc promis de se pencher sur le dossier. Il demande au préfet d'intervenir auprès des maires concernés. Et pour calmer les esprits, le ministre a également promis d'accélérer la reconnaissance de catastrophes naturelles. Christophe Castaner qui a ensuite félicité les sapeurs-pompiers du Var pour leur travail avant de survoler les secteurs inondés et de se rendre dans les Alpes-Maritimes.
Jacques Terrance au Muy dans le Var. Alors si l'eau commence à descendre, la décrue est lente. Du coup, Frédéric Michel, il y a encore de nombreux sinistrés qui ont les pieds dans l'eau ce soir.
Oui, et ils sont des milliers à avoir commencé à constater les dégâts et à nettoyer leur maison, leur terrain, écoper l'eau qui s'est infiltrée partout. Et ce soir, ils seront encore des centaines ce soir à devoir dormir loin de chez eux, dans leur famille, chez les amis ou les salles mises à leur disposition. Beaucoup ont eu la peur de leur vie, comme Marina, qui a dû fuir sa maison de Fréjus avec ses enfants.
À 1h du matin, on a été évacués. Il a dit « Maman, on va mourir ici, on va mourir ici ». Et il fallait que je tienne, quoi, pour mes enfants et mon chien. Mon chien est stressé, il tournait sur la table, c'était de la folie, quoi. C'est de la folie pure, mais il faut tenir, quoi. Et ce matin, tout seul dans mon coin, j'ai craqué, voilà, pour que personne ne voie.
Et face à la montée des eaux, cette famille de Saint-Égulf n'a pas eu d'autre choix que de quitter son domicile.
Les polices municipaux sont passées, nous signaler, on a décidé de rester. Mais au bout d'un moment, ils sont revenus et ils nous ont dit qu'il faut évacuer, donc on n'a pas eu le choix. Voilà, on ne sait pas dans quel état on va retrouver la maison.
Vous allez essayer d'y aller quand ?
Fin d'après-midi, si c'est descendu un petit peu, oui.
Maman, elle a dit au moins 3 jours qu'on va rester là. Et là, il n'en reste plus que 2 aujourd'hui et demain.
Et même ce matin, à Mandelieu, comme dans de nombreux endroits, des automobilistes ont encore été piégés. Beaucoup de routes du réseau secondaire dans le Var et les Alpes-Maritimes restant impraticables.
Là, les messieurs, dames ont été gentils de nous sortir d'une flaque d'eau. Là, on avait de l'eau jusqu'aux portières des voitures. Il n'y a pas d'eau dans l'habitacle, mais bon, elle ne démarre plus. Hein.
Depuis hier qu'il y a eu la sirène, moi je suis très très choquée. Et on n'avait jamais vu comme ça, nous.
Voilà, il faudra des jours pour que la situation revienne à la normale dans les deux départements.
Et Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le sud-est de la France.
Mandelieu-la-Napoule, vous en parliez à l'instant. Frédéric Michel, nous rejoindrons dans cette commune limitrophe de Cannes. Le maire, dans quelques instants, Sébastien Leroy, sur l'antenne d'Europe 1. Dans l'actualité encore ce dimanche, la pression monte au gouvernement et chez les partenaires sociaux autour de la grande mobilisation, Fabienne Lemoyle, du 5 décembre.
Et pression autour de la grève des transports avec une question question, comment aller travailler ce jour-là? Eh bien, Muriel Pénicaud a la réponse, le télétravail.
Je voudrais passer un message aux employeurs et aux salariés, ça fait beaucoup de monde dans ce pays, pour leur rappeler que depuis les ordonnances travail, le télétravail est un droit et qu'il suffit d'un simple échange d'emails entre le salarié et l'employeur. Donc ce jour-là, je pense, tous les métiers ne s'y prêtent pas, mais il y a beaucoup de métiers où ça s'y prête. Mmh. Donc il ne faut pas demander aux gens de faire des acrobaties. Et je dis aux chefs d'entreprise d'être compréhensifs avec leurs salariés. Aujourd'hui, il y a des formes de travail à distance. Il ne faut pas, ce jour-là, demander aux gens de faire l'impossible.
Mais sur les réquisitions des agents des entreprises de transport, SNCF, RATP, y a des
règles
sur
les, bah, y a des règles sur le service minimal. Pas plus, pas moins. Il faut appliquer les règles. On ne va pas inventer des règles pour le 5 décembre.
Lui dit réquisition.
Oui, moi je dis qu'il y a des règles et qu'on les applique, pas plus, pas moins.
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui était l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos et qui répondait aussi au président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, qui va déposer une proposition de loi cette semaine pour créer un droit au transport public garanti.
Europe 1, 18h06, la suite du journal, Fabienne Lemoyle, Wendy Bouchard.
Et le chiffre avait déjà affolé en début de semaine. Le procureur de la République de La Rochelle parlait de 250 victimes potentielles dans le dossier du chirurgien accusé de pédophilie.
Eh bien, on est peut-être en deçà, Wendy, encore de la réalité, au vu de ce que révèle le journal du dimanche aujourd'hui. On apprend en effet que Joël Skouarnec a exercé dans 18 hôpitaux et non 5, comme on le pensait jusqu'à présent. Et ce sont les carnets qu'il a tenus lui-même, Mathieu Bock, qui montrent l'ampleur que pourrait prendre cette affaire.
Oui, le médecin a scrupuleusement consigné ses crimes sur papier. 246 noms de victimes notés au stylo dans deux petits carnets, un pour les filles, un pour les garçons. À côté de ça, il a tenu pendant 30 ans une sorte de journal intime où il parle de ses crimes et de ses pulsions pédophiles. Et dans ce carnet, il évoque des cas qui ne sont pas recensés dans les deux premiers répertoires. Ce qui fait dire à maître Francesca Satta, l'avocate de la famille de la fillette, grâce à qui le chirurgien a été démasqué, qu'on va encore découvrir de nouvelles victimes.
Découvre en définitive que les victimes ne se cantonnent pas aux 200 noms qui figuraient dans les carnets du chirurgien et qu'il y a également des victimes qui sont en dehors de ce carnet, qui elles aussi ont déposé plainte ou vont déposer plainte. Donc effectivement, on est face à un dossier d'envergure où l'on dépassera largement les 250 victimes. On est au début d'une affaire qui est déjà vertigineuse, mais qui le sera un peu plus dans les semaines à venir.
Alors l'enquête va devoir déterminer comment, pendant 30 ans, le chirurgien a bénéficié d'une sorte d'immunité, voire de complicité dans ses 18 hôpitaux, alors qu'il avait été condamné une première fois en 2005 pour détention d'images pédopornographiques.
Mathieu Bock.
On va terminer ce journal avec Fabienne, le dégoût et l'incompréhension d'un viticulteur de Moselle.
Oui, écoutez cette histoire. La Mutualité sociale agricole lui réclame 6 000 euros pour travail dissimulé, lui répond que ce sont des amis qui l'ont aidé bénévolement, gratuitement, à faire ses vendanges alors que son exploitation avait subi un très grave incendie. Des arguments que la MSA ne reçoit pas, d'où le dégoût de cet agriculteur.
Sur l'exploitation, j'ai eu un incendie, tout qui part en fumée. Suite à l'incendie, j'ai pas mal de gens qui m'ont dit on viendra te donner un coup de main bénévolement et tout. J'appelle la MSA, je leur explique la chose et on me répond, il n'y a pas de déclaration d'embauche à faire, étant donné que c'était une situation exceptionnelle. Les gens sont venus travailler, je leur ai offert le casse-croûte et puis ça, donc ça a été compté en avantage en nature. Je ne sais pas comment ils ont quantifié ça. Enfin bref, j'ai reçu une lettre de redressement de 6 735 euros. La MSA pour les gens qui sont venus me donner un coup de main gratuitement.
Est-ce que vous allez contester cette décision ?
Non, je vais payer les 6 000 euros. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre ? J'irai faire un crédit à la banque pour payer le travail bénévole. Pour moi, c'est de l'acharnement, quoi. Après, il y a un certain dégoût, on va dire, par rapport à ce qu'ils m'ont fait là, quoi.
Claude Zontag, viticulteur, dont on entend vraiment l'amertume de devoir payer effectivement ces 6 000 euros.
C'était le journal de Fabienne Lemoyle sur Europe 1 qu'on retrouve samedi et dimanche prochain pour vous informer. Merci Fabienne.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres Arcadébé. Plus d'infos sur arcadébé.com. Arcadébé vous présente la météo.
Avec Valérie Darmon, la décrue en cours dans le sud-est avec un temps qui enfin demain redevient un peu plus sec. On fait le point Valérie.
Eh bien, de nouvelles pluies arrivent, évidemment, rien à voir avec celles du sud-est, hein, par l'Atlantique, avec cette perturbation océanique qui arrive sur le nord-ouest la nuit prochaine, qui va circuler lentement sur la moitié nord du pays dans la journée, en s'étiolant petit à petit. Les pluies sont faibles à modérées, donc au nord de la Loire ce lundi matin, suivies d'averses l'après-midi. Quelques gouttes circulent aussi sur le sud-ouest dans la journée et il pleuvra faiblement sur la Champagne et les Ardennes. Le sud-est et la Corse restent à l'écart du mauvais temps. Le temps devient ensoleillé, tendance voilée. Les températures seront globalement stationnaires, les minimales 3 à 10 degrés de l'intérieur des terres vers les côtes, les maximales en hausse avec 9 à 12 degrés dans l'est, 11 à 15 ailleurs, jusqu'à localement 16 dans le sud et 20 sur l'île de Beauté.
Merci Valérie Darmon. On refera un point bien sûr à 18h30 sur Europe 1. Dans votre grand journal et dans un instant, Wendy, vous nous amenez à Mandelieu-la-Napoule, ce soir une commune limitrophe de Cannes.
Commune durement touchée par les inondations en effet, 4 ans après un épisode meurtrier qu'on rappellera sur l'antenne. Comment les habitants ont-ils vécu ces dernières heures? Le maire Sébastien Leroy nous répond dans un instant.
18h13, nous sommes avec Wendy Bouchard pour le grand journal du soir sur Europe 1. Si la décrue s'est amorcée ce dimanche, les départements du Var et des Alpes-Maritimes ont été durement frappés par des pluies diluviennes ces deux derniers jours.
À Mandelieu-la-Napoule, des boulevards, des stades, des maisons ont été inondées. Nous sommes en duplex avec le maire. Bonsoir Sébastien Leroy.
Bonsoir.
Vous qui avez posté sur les réseaux sociaux de très nombreuses photos saisissantes de ces inondations de ces dernières heures, comment ça se passe chez vous ce soir?
Ben écoutez, ça se passe, la situation est en voie de régularisation, les cours d'eau, le niveau baisse et on a énormément d'agents sur le terrain pour essayer de réparer, d'apporter de l'aide aux concitoyens qui ont été durement impactés et d'apporter toutes les solutions possibles au plus tôt.
Il n'y a plus de zones isolées ce soir dans la commune de Mandelieu-la-Napoule. Lorsque l'on voit les vues aériennes, c'est assez saisissant de constater combien les inondations ont été massives sur des territoires extrêmement denses cette fois.
Tout à fait. Bah, écoutez, ce qui est inédit dans cet épisode, c'est que nous avons sur la commune deux cours d'eau, la Siagne et le Rio de l'Argentière. En 2015, c'est le Rio de l'Argentière qui avait débordé de manière très violente. En 2011, c'était la Siagne. Et là, pour la première fois, c'est les deux cours d'eau en même temps. Donc ça nous a impacté sur tout le territoire. Ça a bien sûr dispersé un petit peu nos forces d'intervention. Et effectivement, il y a eu de quantités d'eau très, très, très importantes.
Vous aviez pu, Sébastien Leroy, établir un plan d'évacuation à temps pour les zones les plus impactées, touchées par ces inondations et ces crues?
Alors en fait, tout à fait, puisque depuis maintenant plusieurs années, on a été confronté à ces phénomènes. Donc on a mis en place toute une stratégie et on a des agents qui sont maintenant des vétérans qui connaissent parfaitement la procédure. Et on a en fait pris les précautions d'évacuation et d'alerte avant même de recevoir des instructions de l'État, parce qu'on a senti que la situation était en train d'évoluer très négativement.
On n'a pas attendu. Bien sûr, on entendait votre collègue sur notre antenne, David Lisnard, maire de Cannes, employer hier une méthode, pour la première fois d'ailleurs sous son mandat, faire résonner l'alerte par haut-parleur dans la ville. Alerte rouge, précipitation, mettez-vous en sécurité. Ce sont des dispositifs que vous avez aussi, vous, en main éventuellement?
Oui, oui, tout à fait. On a des haut-parleurs qui sont liés à nos caméras, qui sont centralisés à notre centre de surveillance urbain. Donc on a un réseau de caméras qui est très très dense, on a à peu près 200 caméras qui couvrent la ville, et on a des haut-parleurs qui sont reliés, qui nous permettent de diffuser des messages, on a aussi des haut-parleurs sur les véhicules qui nous permettent de les colporter au plus près des copropriétés, parce que le problème c'est que quand vous avez des orages avec la pluie, il y a un grondement de fond qui fait que si le haut-parleur est éloigné, vous n'entendez rien. Donc on essaie de maximiser le message, on fait marcher les sirènes, on fait marcher les gyrophares pour diffuser le maximum de bruit, pour alerter, et on communique beaucoup par SMS, réseaux sociaux, etc., pour vraiment essayer de joindre tout le monde. Donc on a un système d'alerte maintenant qui est bien rodé et qui, heureusement, et je pense qu'on peut s'en féliciter, on n'a pas eu de victimes, et c'était vraiment là l'essentiel.
Oui, est-ce qu'avec les équipes de la protection civile, des pompiers de la ville, vous êtes en capacité d'établir ce dimanche soir, un bilan des sinistrés dans votre commune de Mandelieu-la-Napoule?
Oui, tout à fait. Bah, écoutez, la première nuit, on a hébergé une centaine de personnes. Là, on a relogé une partie. Les autres ont pu rentrer chez eux. Le courant est revenu maintenant sur la totalité, presque la totalité de la commune. L'eau potable est rétablie, en tout cas, pour la totalité. Mmh. On a encore quelques personnes qui sont hébergées par nos services. Et oui, on a un listing maintenant assez précis. On fait un petit peu de l'appel à chaque citoyen dans les zones concernées pour voir s'il n'y a pas de difficultés et si tout va bien.
Des habitants de votre commune auxquels on pense, nous, depuis Paris, parce qu'on se souvient de cet épisode méditerranéen très violent et meurtrier il y a 4 ans, 8 morts boulevard de la Tavernière. Des habitants qui, à chaque fois que la météo s'affole, tremblent et on les comprend. Quel message leur faites-vous porter ce soir ? Pour ceux qui habitent aujourd'hui en zone inondable et qui n'ont pas eu la possibilité de changer de territoire.
Bien, tout d'abord, je tiens à les féliciter car ils ont fait preuve vraiment d'une très grande discipline dans leur comportement. Ils ont appliqué à la lettre les consignes, il n'y a pas eu de mouvement de panique, il n'y a pas eu d'inquiétude. Là, vraiment, ils ont été exemplaires, ainsi que nos agents d'ailleurs qui ont fait vraiment preuve d'une grande, grande dévotion dans leur mission. Le message que je veux leur adresser, c'est qu'on fait le maximum pour les aider. On fait le maximum pour que ces événements soient contrôlés le plus possible. On se bat véritablement, je pense que c'est le terme, pour faire avancer des procédures qui, dans notre pays, malheureusement, deviennent totalement pléthoriques et d'une inefficacité assez impressionnante.
Et qui ne sont pas que du ressort de la commune, en l'occurrence ?
Mais qui ne sont pas du tout du ressort de la commune, puisqu'en fait, nous, on monte des dossiers, on porte des projets auprès des agences nationales, on doit passer devant des commissions nationales, on doit avoir les validations de l'État, les financements de l'État, on doit démontrer sans arrêt que nos projets n'impactent pas l'environnement, n'impactent pas la faune, n'impactent pas la flore. On demande des enquêtes qui durent des années parce qu'il faut vérifier chaque saison, chaque espèce. On nous fait vérifier l'étude des sols. On nous fait passer dans des trous de souris pour essayer à chaque fois de nous faire encore et encore et encore valider les bienfaits de ces projets.
Et tout ça, Sébastien Leroy, bloque des travaux sécuritaires dans des zones inondables qui sont exposées à chacun de ces événements météo ?
Pour vous donner une idée, sur le rio de l'Argentière qui a débordé en 2015, on avait commencé les procédures en 2011.
Oui.
On les a fait évoluer en 2015 pour tenir compte de ces nouvelles crues. On est en 2019, on est encore dans les dossiers.
Voilà. Et
on
n'a
pas encore commencé du concret.
On comprend et que ça porte aussi préjudice à la commune tout entière, avec des valeurs locatives ou des valeurs à la vente qui sont évidemment à la baisse. Comment aujourd'hui on attire aussi les habitants de demain dans des zones inondables qui ne sont pas sécurisées ? C'est un casse-tête pour vous, j'imagine, Sébastien Leroy.
Mais vous savez, la valeur marchande des biens n'est pas un critère, c'est pas l'important. Ce qui compte réellement, c'est déjà d'offrir une sécurité optimale avec ce qu'on sait pouvoir faire. Aujourd'hui, on sait ce qu'on doit faire, on sait comment le faire, on sait comment le financer. Je peux même vous dire qu'on peut le financer. Demain, on me donne l'autorisation, je peux même moi le financer avec ma trésorerie. Le problème, c'est que je n'ai pas d'autorisation pour le faire. Il faut que j'aille me battre à chaque fois pour faire valider des dossiers. Et à chaque fois que le dossier doit passer de service en service en service, mais les agents de l'État sont d'une très bonne volonté, nous disent on veut vous aider, on va aller plus vite, mais c'est la loi. Donc moi, l'appel que je lance très simplement, il est tant au gouvernement mais qu'au Parlement, c'est qu'il faut changer de système. Il faut que le système soit géré au niveau local, que le contrôle de l'État se fasse a posteriori, qu'on puisse enfin réaliser ces aménagements qu'on doit faire. Là, dans quelques mois, on va enfin pouvoir faire des travaux sur les copropriétés qui seront financées à 80% par les fonds publics.
Oui.
C'est une première en France. Il a fallu 5 ans pour y arriver, on peut s'en féliciter, mais il a fallu 5 ans. On aurait pu aller plus vite. Je suis convaincu qu'on doit aller plus vite.
Merci. Merci Sébastien Leroy. Et on pense à tous vos administrés, à tous les habitants de Mandelieu-la-Napoule et des communes touchées par ces intempéries ce soir. Merci, monsieur le maire de Mandelieu.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h20. À suivre, Wendy, le journal des sports.
Simon Rubin nous a rejoint avec Lionel Rousseau pour parler foot, rugby et ski au programme de ce dimanche. À tout de suite.
Jusqu'à 20h, vous écoutez le grand journal du soir sur Europe 1, Wendy Bouchard.
Toute l'actualité sportive de ce dimanche avec Simon Rubin. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Et au sommet, on vous écoute.
Du foot et la lutte pour le podium qui fait rage, du rugby, sale temps pour les Français en Coupe d'Europe et puis du ski, décollage presque parfait pour Clément Noël.
On commence avec la Ligue 1 de football donc et un match en cours. Saint-Etienne reçoit Montpellier.
Un match entre le 4e et le 6e, du moins avant toutes les rencontres de cette 14e journée. Anthony Perel, vous êtes sur place. Et comme on pouvait s'y attendre, match très serré.
Oui, très serré, 0-0. Il reste une trentaine de minutes à jouer et on s'ennuie un petit peu pour être honnête. La première mi-temps a été plutôt insipide malgré quelques petites situations de part et d'autre. Denis Bouanga aurait quand même pu ouvrir le score dès la première minute de jeu. Mais le meilleur buteur des Verts, bien lancé en profondeur par Arnaud Nordin, n'a pas cadré sa frappe des 16 mètres. La plus grosse occasion a été pour Montpellier. Gaëtan Laborde a cru ouvrir le score à la demi-heure de jeu sur une frappe extrêmement bien placée depuis le point de pénalty. Mais Stéphane Ruffy a sorti un arrêt stratosphérique, le gardien des Verts qui fête ce soir sa 304e en Ligue 1 sous le maillot de la SS. Et il détrône donc en nombre de matchs joués la légende Ivan Kurkovic, que les amoureux de la grande épopée des Verts ont connu. C'était lui qui gardait la cage en 1976. La SS a donc été sauvée par son portier donc, et Montpellier par son poteau, puisque le jeune ailier Stéphanois Arnaud-Nordin a touché la barre transversale de Rouli, le gardien de Montpellier, juste avant la pause. Et depuis la reprise, la partie ne s'est pas vraiment emballée, même si Montpellier aurait pu bénéficier d'un pénalty il y a quelques minutes de cela. Et vous l'avez dit, pour l'instant, c'est le statu quo dans ce duel qui peut mener l'une des deux équipes sur le podium de la Ligue 1. Un score qui est plutôt conforme aux statistiques. Saint-Etienne ne perd plus depuis 9 matchs toutes compétitions confondues. Et Montpellier ne gagne toujours pas à l'extérieur cette saison. Il reste une trentaine de minutes, Simon, pour faire la différence.
Anthony Perel en direct. Et puis un petit peu plus tôt dans la journée, Bordeaux a signé une victoire précieuse, 2-1 contre Monaco, et se replace dans la course au podium. Ce soir, Marseille va batailler pour reprendre la deuxième place en se déplaçant à Toulouse. Match à suivre sur Europe 1 avec Lionel Rosso.
Il est là avec nous. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Wendy.
De 20h à 21h, comme une fois par mois, vous recevez le studio des légendes.
Absolument, avec ce soir Guy Roux, Charles Villeneuve, Thierry Bretagne et l'agent Bruno Satin pour les grands débats avant le match Toulouse-Marseille, bien sûr.
Oui, au menu des discussions, notamment le ballon d'or. Alors statistiquement, vous êtes au clair tous, légendes que vous êtes, pour dire que ce ballon ne sera pas français ?
On peut vous le dire. Il y a quatre, parmi les 30 nommés, il y a quatre joueurs potentiels qui peuvent le gagner. Mbappé, Griezmann, Lloris, Benzema. Mais l'année dernière, les Français étaient champions du monde et aucun n'a eu le ballon d'or. Pourquoi il l'aurait cette année ? Tout simplement parce que le ballon d'or, l'attribution du ballon d'or, ça sera d'ailleurs le 2 décembre prochain, le ballon d'or France Football. C'est un peu comme le concours Miss France. C'est pas qu'un concours de beauté. Il y a aussi l'expression orale, la médiatisation.
Bon,
là, c'est pas uniquement les footballeurs. C'est aussi la notoriété, le nombre de followers, l'implantation marketing aussi. Voilà pourquoi Cristiano Ronaldo et Lionel Messi seront sans doute ballon d'or, encore une fois, le 2 décembre prochain, et sans doute pas un Français, malheureusement.
Vous savez ce qu'Emmanuel Macron a dit aux étudiants d'Amiens la dernière fois ? Soyez plus optimistes. Gageons, c'est
gageons.
Bien parti.
Gageons. Et
merci, on reçoit tout à l'heure 20h, Simon.
Plus pour 2021.
Ouais, c'est ça.
Alors, on parle foot, mais laissez-moi d'ailleurs vous faire écouter une ambiance, pour le coup, digne d'un match de foot. Là, ce que vous entendez, ce sont 42 000 personnes qui étaient réunies en tribune pour un match de tennis ce week-end, un match d'exhibition avec en star ultime Roger Federer, le Suisse, qui est en pleine tournée latino-américaine. Record de la plus forte affluence pour un match de tennis, et c'était au Mexique.
Impressionnant. Hein, on passe au rugby, Simon, avec un dur week-end pour les clubs français, décidément.
Alors, ils sont 6 engagés dans la Champions Cup, et après 2 journées, ils ne sont déjà plus beaucoup à pouvoir rêver d'une qualification en quart de finale. La Rochelle est quasiment éliminée après une nouvelle défaite 25-15 à Sale. Et Montpellier sauve l'honneur en battant Gloucester 30-27 il y a quelques minutes. Deux clubs français sur les 6 engagés ont gagné ce week-end.
On termine avec du ski. La France pas loin d'une première victoire en slalom.
Ça partait bien à Lévis en Finlande. Après la première manche, Clément Noël était en tête impériale. Mais la seconde manche s'est déroulée dans des conditions difficiles, surtout pour les skieurs qui s'élançaient en dernier. Et c'était le cas du Français de 22 ans qui échoue à la deuxième place. De quoi, malgré tout, avoir le sourire pour la suite.
C'est une belle course, je suis content de commencer la saison comme ça. C'est sûr que j'aurais espéré un petit peu mieux après la première manche où j'avais vraiment fait une très bonne manche, mais au moins ça montre que je peux être très rapide, je peux être le meilleur sur certaines conditions, sur certaines manches. Et sur la deuxième manche, je pense que j'ai pris des risques, j'ai fait des erreurs, et puis au final, je m'en sors quand même pas trop mal avec une deuxième place, même plutôt bien. Ça montre que tout va plutôt bien physiquement.
Clément Noël, deuxième du premier slalom de la saison. Et le prochain rendez-vous en slalom, ce sera Val d'Isère, mi-décembre.
Merci Simon. La suite de l'info sportive à 19h10 sur Europe 1.
Et dans un instant, l'essentiel de l'info. Et puis on va en entendre parler.
De cette opération, les agriculteurs, ce sera mercredi, en particulier en Ile-de-France. 1000 tracteurs pour bloquer les axes routiers et leurs revendications. Eh bien, vous les entendez dans un instant.
18h29, la suite du Grand Journal du Soir sur Europe 1, Wendy Bouchard.
Et si vous nous rejoignez, chers amis auditeurs, voici l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Sophie Echen.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Le ministre de l'Intérieur en visite dans le sud-est de la France au lendemain des violentes intempéries qui ont frappé la région. Après avoir rencontré des élus et des sinistrés dans le Var, Christophe Castaner s'est rendu auprès des pompiers des Alpes-Maritimes. Selon le dernier bilan annoncé par le ministre de l'Intérieur, on compte 2 morts et 4 personnes disparues. Sur place, la décrue a commencé, mais elle est lente. Le département du Var est désormais le seul maintenu en vigilance orange inondation. 2 morts et 1 blessé grave dans un violent incendie dans un squat à Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne. On compte également 4 autres blessés légers, dont un enfant. Le feu s'est déclaré dans un vieil immeuble de 4 étages, mais le bâtiment n'était pas insalubre, selon le maire de la ville. Et puis le Grenelle contre les violences conjugales s'achève demain soir, alors qu'une grande marche contre les violences sexistes et sexuelles a rassemblé près de 50 000 personnes hier à Paris. Le gouvernement doit dévoiler toute une série de mesures pour trouver des solutions. Ce matin sur Europe 1, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a préconisé que les femmes battues puissent débloquer leur épargne salariale.
Sophie Echen, merci. Petit point météo, Valérie Darmon, on annonce la décrue dans le sud-est, un temps plus sec dans ces départements et du côté des températures, bien ça remonte un peu cette semaine malgré toujours quelques gouttes de pluie.
Effectivement, les températures afficheront des valeurs un peu au-dessus des normales de saison avec 5 à 10 degrés le matin et 10 à 17 les après-midi. Le risque de gelée en plaine sera quasiment nul. En montagne, la limite pluie-neige fluctuera entre 1200 et 1007 en moyenne et au-dessus de 1800 mètres, les quantités de neige s'annoncent toujours très importantes en Savoie. Attention au risque d'avalanche élevé. Tout cela sous de nombreuses pluies et du vent, notamment sur la façade ouest de la France. En fin de semaine, les températures baisseront de nouveau.
Merci Valérie Darmon. Le Grand Journal du Soir se poursuit jusqu'à 20h et on va en entendre parler sur Europe 1.
On va en entendre parler, ça commence demain. Bonsoir Naïma Benchemane.
Bonsoir Andy Bouchard.
Édouard Philippe reçoit les partenaires sociaux à Matignon.
À 2 semaines de l'appel à la grève générale du 5 décembre, Emmanuel Macron, qui veut supprimer les régimes spéciaux, a bien précisé vendredi dernier qu'il ne renoncerait pas à la réforme des retraites.
Mardi, le lancement de la nouvelle campagne des Restos du Cœur.
Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
Cette formidable histoire que Coluche avait initiée sur Europe 1 en septembre 85 avec la ferme intention de lutter contre la détresse et la précarité. Et Wendy, plus de 70 000 bénévoles travailleront main dans la main dès mardi pour nourrir, loger et accueillir des milliers de personnes en difficulté.
Et pour souligner l'importance de l'association, on peut rappeler avec vous quelques chiffres parlants.
Le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en France a encore augmenté. Elles sont désormais plus de 9 millions. Et l'année dernière, Wendy, les Restos du Cœur avaient tout de même réussi à accueillir 900 000 d'entre elles.
Naïma, mercredi, on va au cinéma pour voir quoi ?
Pour voir Gloria Mundi, le nouveau film de Robert Guédiguian, l'histoire d'une famille modeste qui peine à s'en sortir. Et avec cette œuvre poignante et très sombre, ce cinéaste militant exprime, dit-il, sa colère contre l'ultralibéralisme et l'individualisme forcené de la société d'aujourd'hui.
Ta fille a un grand-père, c'est normal qu'ils se connaissent, sans plus.
Il a tué des gens ?
Non, il s'est défendu parce que sinon c'est lui qui y passait.
C'est du prénom ça, Gloria ? Et toi, tu travailles, Mathilda ?
3 mois, je suis à l'essai. Puis après, je me ferai virer, comme d'hab.
T'es libre ?
Ah, je suis pas un taxi, monsieur.
Je bouffe, faut que je bouffe, bordel !
Gloria Mundi, comme toujours, tournée à Marseille par Guédiguian, sa ville de cœur, avec sa troupe habituelle.
Jean-Pierre Daroussin, Anaïs Demoustier et bien évidemment Ariane Ascaride, qui a reçu pour ce rôle le prix d'interprétation à la dernière Mostra de Venise.
On ira voir donc jeudi l'ouverture du procès en appel du cardinal Barbarin.
Il avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agression sur mineur dans le cadre de l'affaire Perra.
Et voilà cette semaine une enquête très embarrassante publiée par nos confrères de l'Obs.
Un séminariste qui était jeune moine au moment des faits l'accuse cette fois directement d'harcèlement sexuel et moral.
Vendredi, en musique, le fils de François Zardier, de Jacques Dutronc, Thomas Dutronc, est en concert.
J'aime plus Paris. On court partout, ça m'ennuie. Je vois trop de gens, je me fous de leur vie.
Depuis ce titre phare, J'aime plus Paris, et en l'espace d'une décennie, ce manouche sans guitare s'est taillé une solide réputation dans l'univers musical français. Et il sera donc en concert à Paris au Trianon, Wendy, dans le cadre du Blues Note Festival, un festival incontournable pour tous les amoureux du jazz.
Et puis une autre sortie musique, vendredi, c'est l'album de Renaud.
Renaud sortira son nouvel opus, Les Mômes et les Enfants d'abord, 3 ans à peine après Toujours Debout, un album à l'univers très espiègle, car comme il le déclare dans les colonnes du JDD ce matin, « Ma patrie, c'est l'enfance ».
Oui, et il profite également de cette interview pour rassurer sur son état de santé.
« J'ai arrêté l'alcool depuis 10 mois, c'est déjà une victoire sur la vie », dit-il. Et on se quitte avec son nouveau titre.
« Les animaux ».
Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevaux, les chouettes et les hiboux.
C'était une semaine en Europe 1, une semaine à venir sur Europe 1 avec Naïma Benchemann.
Et les agriculteurs vont se faire entendre aussi, Wendy Bouchard, mercredi prochain.
Une opération lancée jusqu'aux portes de Paris, mercredi en effet, par les syndicats de la FNSEA d'Acomté, par les jeunes agriculteurs de l'Autre à partir de 6h du matin. Ils vont envoyer un millier de tracteurs pour perturber le trafic en Île-de-France. Bonsoir Baptiste Gatouya.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président des jeunes agriculteurs, céréaliers dans l'Aube depuis 13 ans, 225 hectares de culture. Est-ce que c'était la meilleure manière de procéder pour vous, pour faire passer votre message dont on va parler dans un instant?
Écoutez, ce qui se passe, c'est que ça fait un an que la loi État généraux de l'alimentation, la loi Egalim, qui était là pour redonner du pouvoir dans les négociations aux producteurs, est appliquée. Et pour le moment, la valeur ajoutée qui est créée dans la filière grâce à nos produits ne nous est pas rendue à notre juste valeur et les prix n'ont pas assez augmenté pour permettre aux agriculteurs de vivre décemment de leur métier. Donc c'est aussi ça en premier lieu que l'on dénonce.
En fait, avec cette opération, vous allez demander des comptes au gouvernement. Pourquoi, pour le coup, pour vous, le compte n'y est pas?
Le compte n'y est pas parce que dans les négociations commerciales, des retours que l'on a eus, plutôt que de passer des hausses sur les produits agricoles, les distributeurs ont plutôt demandé des baisses. Donc à l'encontre de l'esprit de la loi et du respect de la loi.
Pour garder leurs produits au même prix.
Voilà, leurs produits leur au même prix, voire même essayer de se mettre finalement, avec le seuil de revente à perte et l'interdiction des promotions, d'essayer de détourner la loi pour, pourquoi pas, même dans certains cas, essayer de maintenir leur marge, voire de les augmenter sur le dos des agriculteurs. Et ça, c'est tout bonnement inacceptable. Donc, ce que l'on demande, c'est que le gouvernement prenne ses responsabilités, que les contrôles qui soient faits soient suivis de sanctions, qu'ils soient vraiment contrôlés, les distributeurs, sur les négociations commerciales qui se mènent en ce moment et qui vont commencer en ce moment.
On vous comprend évidemment, votre profession restant la plus exposée à la pauvreté aujourd'hui, Baptiste Gatouya. La semaine dernière, on parlait avec d'autres invités du glyphosate. Est-ce qu'on en sortira ou pas finalement à l'horizon prévu par Emmanuel Macron, c'est-à-dire 2021? Il faudrait pour cela, entre autres, faire supporter les coûts supplémentaires induits par cette fin d'utilisation par les consommateurs. Or, ce qui semble se profiler, c'est que c'est vous encore qui les premiers à les trinquer. Ça, vous le refusez, évidemment, une fois de plus.
Ah bah oui, parce qu'avec toute nouvelle norme franco-française et rapide qui vont arriver, parce qu'il faut quand même laisser le temps aux exploitations de changer de modèle, de s'adapter à ces règles-là, on va le faire encore rapidement, sous couvert de communication et on va dire de démagogie. Et là, derrière,
ou de conformité avec ce que demande quand même l'opinion publique, et vous les suivez là-dessus, les citoyens.
Oui, ce qu'il faut aussi, c'est que les citoyens aussi comprennent ce que nous, on leur explique, que lorsque nous, on utilise alors le glyphosate ou un autre produit phytopharmaceutique, on l'utilise dans les bonnes conditions, au meilleur des cas, sans abus et en respectant au maximum l'alimentation qui, au final, au sortir de nos fermes, est de qualité. Il va falloir que financièrement, ce soit compensé. Et nos agriculteurs qui souffrent financièrement sur les exploitations ne pourront pas se permettre de reprendre encore une charge en plus. Plutôt que de passer à 15-20% d'agriculteurs au seuil de pauvreté, comme les statistiques le montrent, on peut encore mettre à mal encore un pan de l'agriculture. Alors, on en a quand même pas encore besoin en ce moment sur le territoire français.
Parmi les doléances qui seront brandies par les agriculteurs et les jeunes agriculteurs que vous représentez, Baptiste Gatouya, mercredi, il y a notamment le besoin de clarté de la part du gouvernement et de la part du président, notamment leur positionnement par rapport au traité de libre-échange. Et vous vous demandez pour le président, la France finalement a encore besoin de ses paysans. Il ne vous rassure pas en ouvrant la voie à des traités trop libéraux qui pourraient nuire aujourd'hui aux productions franco-française?
Oui, ça, on lui demande d'avoir une clarté. Il y a, d'une autre part, il nous fait des annonces sur le Mercosur au début, qui c'est un bon accord. Après, il revient sur sa décision parce qu'il y a un feu en Amazonie. Et là, sur le CETA, il nous dit, bah oui, c'est un bon accord. Sauf que nous, ce que l'on veut, être en concurrence avec d'autres pays, ça, on peut l'entendre, parce que nous aussi, on a besoin d'exporter. Mais par contre, il nous faut des mêmes règles, avec les mêmes normes. Si je prends un secteur, on nous prône en ce moment les légumineuses et les protéines végétales. On a par exemple le marché des lentilles. Et ben, les Canadiens arrivent à produire des lentilles beaucoup moins chères que nous et arrivent au même prix sur le territoire français, voire même moins cher, parce qu'ils utilisent des produits que nous ne sommes pas autorisés en France, et notamment du glyphosate juste avant la récolte. Alors que nous, c'est strictement interdit, toute culture confondue. Donc là, il y a une vraie distorsion de concurrence. Et là, du coup, on lui demande un petit peu de logique et de compréhension.
Oui, où on interdit ces produits à l'importation, où on les autorise dans les deux sens.
Voilà, c'est ça. On veut une cohérence dans les propos du président de la République aussi.
Cette opération du mercredi va faire suivre, Baptiste, à une précédente journée d'action. C'était le 22 octobre, nos auditeurs s'en souviennent peut-être. Et vous étiez des milliers devant les préfectures à interpeller le chef de l'État. Vous aviez eu une réponse à cet appel à ce moment-là?
Oui, on a une réponse, alors une partie des réponses lors de son discours à Mayotte, notamment sur l'agribashing et les intrusions dans les élevages. Et donc là, la cellule qui est mise en place avec le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Intérieur permet justement d'avoir une partie de ces réponses. Donc quand on voit qu'il y a une volonté politique du président de la République de saisir d'un sujet, il est capable de le faire. Donc ce qu'on lui demande et ce qu'on demande au gouvernement, c'est de se saisir aussi de nos autres revendications. On n'a pas de vision agricole en ce moment en France.
Avec le prisme aussi de la grève générale qui s'annonce le 5 décembre, est-ce que vous pourriez, vous, agriculteurs, y participer dans le cadre de la fameuse convergence des luttes, Baptiste Gadouillard?
C'est pas à l'heure du jour, parce que les revendications ne sont pas forcément les mêmes. Il faut aussi que on soit entendu sur nos revendications propres, ce qui c'est pas tout à fait les mêmes. Et voilà, on préfère nous avoir. On a eu une stratégie syndicale, vous l'avez rappelé. On a eu au mois d'octobre des actions un petit peu sur les préfectures, dans les grandes et moyennes surfaces, auprès des distributeurs, pour justement sensibiliser l'opinion publique sur nos revendications et ce qui touchait à leur alimentation tous les jours. Et à la fois la responsabilité du gouvernement, la responsabilité du consommateur et du distributeur, justement, dans le mal-être des agriculteurs. Donc voilà, c'est un petit peu ça. On a une stratégie et voilà, on arrive à des points de blocage à certains endroits, notamment là, autour de Paris, pour voilà, avoir un petit peu d'écho aussi médiatique et pouvoir aussi se faire entendre des pouvoirs publics.
Et ça commence ce soir sur Europe 1. On va en entendre parler, votre action. Mercredi, Baptiste Gatouya, vice-président des jeunes agriculteurs. Merci de vos propos ce soir.
Merci Wendy.
À suivre, le journal de l'auto. Pierre de Villeneuve va nous parler d'une voiture très étonnante.
La nouvelle Tesla, oui, il va vous la décrire. Et puis les manuscrits en or de la chanson française, mis en lumière par Fabien Lecoeur. Ce soir, ne bougez pas.
18h43, le grand journal du soir, la suite sur Europe 1, Wendy Bouchard.
Bonsoir à tous, voici Tout roule, le magazine d'Europe 1 chaque dimanche soir avec vous, Pierre de Villeneuve. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous à la une de Tout roule. Le déplafonnement du malus, une Ford Fiesta qui conviendrait bien à James Bond et une Tesla comme vous n'en avez jamais vu.
On commence avec le dossier de la semaine. C'est Bruno Le Maire qui compte déplafonner le malus automobile.
Depuis une semaine, les distributeurs, les professionnels de l'auto grondent. Bruno Le Maire a en effet proposé de déplafonner le super malus de 12 500 euros qui touche les voitures qui rejettent plus de 173 grammes de CO2. D'autre part, le ministre des Finances propose que les pubs pour ces autos puissantes indiquent l'impact sur l'environnement, un peu comme le tabac et l'alcool. Alors, la voiture serait une drogue, s'interrogent certains observateurs. Plus généralement, les instances automobiles comme la PFA ou le CNPA regrettent une nouvelle étape sans concertation sur ce car bashing. Il faut voir que les ventes de ces voitures, qui rejettent plus de 173 grammes, c'est 7% des ventes. Donc on est quand même très loin de la majorité. Moi, quand j'étais enfant, mes parents collaient une vignette sur le pare-brise.
Ouais,
vous aussi. Voilà. Et dans les magazines auto, il y avait la liste des puissances auto, des prix en fonction des voitures. Ça se calculait en chevaux fiscaux. La 2 chevaux était tout en bas. Et tout en haut, il y avait quoi? Il y avait les Rolls-Royce. Et c'était 54 chevaux fiscaux parce que le moteur faisait 6,75 litres. C'est un énorme moteur. Donc, c'est pour moi tout simplement un retour en arrière. Le super malus, c'est en fait le retour à la vignette qu'on avait supprimée au début des années 90 parce qu'on trouvait ça pas juste. Finalement, c'est un retour en arrière.
On dit quoi? Que l'histoire se répète, n'est-ce pas? Les news de la semaine, Pierre de Villeneuve.
Avec la France qui chute au 5e rang de la production automobile en Europe, elle était jusqu'en 2011 le 2e pays producteur. La voilà désormais victime de la concurrence étrangère et de l'internationalisation des constructeurs nationaux. Le gouvernement lance une appli Mon Compte Formation où CPF, Édouard Philippe, a choisi le campus de l'automobile de Guyancourt pour le faire, car le secteur auto a le vent en poupée. Puis Sébastien Angier quitte Citroën, la fameuse marque aux chevrons, ne participera pas du coup au WRC, au rallye WRC l'an prochain. Il faut dire que les performances du Français étaient cette année en deçà de son palmarès habituel.
On passe à l'essai de la semaine. Vous avez essayé la Ford Fiesta ST.
Oui, ST, alors que la Ford Fiesta, elle a une longue histoire en France. De tout temps, elle a été moins chère que les autres. C'est encore le cas aujourd'hui. Notamment, les offres LLD sont assez imbattables. Le rapport qualité-prix-équipement est vraiment bien positionné. La Fiesta ST, c'est autre chose. Déjà essayé dans sa première mouture en 2014 dans Tout roule. Le haut de gamme de la Fiesta, qui appartient à la gamme Performance, revient ici dans sa version 2019 avec un 3 cylindres, 1,5 litre, 200 chevaux. Alors vous savez quoi? La particularité, c'est qu'on râle toujours contre ces 3 cylindres qui font le bruit d'une friteuse. Là, pas du tout. Elle a le bruit d'une voiture de sport. Elle a l'agrément d'une voiture de sport, les performances d'une voiture de sport. Et cette petite série, à partir de 25 400 euros, c'est comme je le disais déjà il y a 5 ans, c'est potentiellement une voiture de James Bond. Elle a une certaine classe, elle est discrète, elle est très bien équipée. Seul défaut, son rayon de braquage, c'est-à-dire qu'on fait trois manœuvres au lieu d'une. Ça, c'est vraiment pas très intelligent. Et puis une suspension très ferme. Alors, on aurait pu mettre une suspension pneumatique, mais là, on était vraiment au-delà des 25 400 €. Donc, pour ceux qui veulent jouer à 007 pour un prix un peu plus bas qu'une voiture de très très haut de gamme, la Ford Fiesta ST, c'est un très bon choix.
Pierre, l'insolite de la semaine, c'est la dernière trouvaille d'Elon Musk. Elon Musk, c'est le patron de Tesla.
Oui, le Cybertruck, un engin sorti tout droit d'un film fantastique. Un pick-up 100% électrique, 6 places, pouvant emporter 1,5 tonne et en mesure de tracter 7 tonnes, jusqu'à 800 km d'autonomie en électrique pour le plus cher.
Pas mal, ça.
Vous allez voir les photos, c'est vraiment un engin tiré de Mad Max ou de Blade Runner, avec des lignes droites, le tout est blindé, et forcément, bien, il peut s'adresser aux décideurs militaires. L'alliage qui résiste aux balles de 9 mm sera d'ailleurs celui utilisé pour la future fusée de SpaceX.
On est à l'état du prototype pour l'instant.
Pas du tout, c'est une voiture qui va être vendue et environ entre 40 et 70 000 dollars. Mais c'est un énorme machin, c'est encore plus grand qu'un Hummer et c'est tout en ligne droite. On a l'impression d'une soucoupe volante presque. C'est totalement hallucinant et ça va être produit.
Voilà, version SpaceX. Ainsi, j'achève tout roule. Merci Pierre Devineau retrouve demain pour la présentation du journal de midi et dimanche prochain pour tout roule.
Avec plaisir.
C'était Tout Roule avec les pneumatiques Hankook. Sécurité, adhérence, longévité, faites confiance aux pneus 4 saisons Hankook, sûrs et performants, tout le temps et par tous les temps.
On se retrouve avec Fabien Lecoeuvre dans un instant, alors que Paris Match met en vente 120 photos cultes publiées dans le journal. Nous, on va s'intéresser, bonsoir Fabien.
Bonsoir Wendy.
Aux manuscrits célèbres des chansons qui se sont arrachés aux enchères en France, à l'étranger, et de lourd.
Et ça, c'est depuis le changement de siècle et même le changement de millénaire.
Oui, ben, on y vient. Soyez à l'écoute.
Il est 18h50 et nous sommes avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Voici le rendez-vous musical et culturel de ce grand journal du soir, une chanson dans la tête.
Et donc Fabien Lecoeuvre avec nous pour réagir aussi à cette grande vente aux enchères demain. Maison des ventes Cornette de Saint-Cyr, des photos de Bardot, de Belmondo, de Tabarly, de Jacques Chirac, issus de Paris Match. Ça vous a donné envie, Fabien, de parler des manuscrits, de leur valeur, manuscrits de la chanson française en particulier.
Oui, parce que régulièrement aussi, dans toutes les ventes consacrées à la chanson française, il y a beaucoup de manuscrits, mais beaucoup de photos issues aussi des fonds Paris Match quelquefois, et qui sont aujourd'hui considérés comme les nouvelles œuvres d'art, en tout cas de notre temps. Et Paris Match est un modèle absolu pour le monde entier, d'illustres photographes.
70 ans d'archives, faut le dire.
Évidemment, qui consacre et qui a saisi un instant exceptionnel, souvent en photographie, et que les gens veulent conserver comme un tableau de notre temps, finalement.
Alors, je précise aussi que vous êtes, depuis 10 ans, expert en chansons pour les tribunaux et membre du syndicat des experts français. Voilà pourquoi ce que vous dites va avoir une valeur particulière. Mm-hmm. On va commencer par une chanson, tout ce qu'il y a derrière. Écoutez.
Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes.
Gainsbourg et sa Marseillaise, version reggae.
Il y a 40 ans, pile en 1979, Gainsbourg adaptait le célèbre succès, si on peut parler de succès, de Rouge et de Lille, qu'il avait créé en 1792 et qui est devenu le 26 Thermidor de l'an 3 de la République, qui correspond à un 14 juillet 1795 finalement, et qui devient l'hymne national de notre pays. Alors évidemment, aujourd'hui, Wendy, on connaît 4 manuscrits de la Marseillaise. Originaux.
Donc écrit de la main de Rouget de Lille.
Écrit de la main de Rouget de Lille, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore ces systèmes d'imprimerie mis au point. Et quand quelqu'un voulait récupérer le succès de Rouget de Lille, chanté par les armées du Rhin, puis après par les armées françaises, eh bien, il fallait qu'il recopie de sa main, lui, sa partition et son texte.
D'accord.
Il en a recopié à peu près une centaine, mais on n'en connaît que 4. Les autres ont été détruits probablement. Alors,
donc,
il y en a un qui est à l'Assemblée nationale.
Oui.
Il y en a un autre qui est aux Archives nationales. Un qui a été vendu récemment, le 15 novembre 2012, au prix de 192 000 euros. Ce qui n'est pas rien quand même. Un particulier qui veut rester totalement anonyme. Ça s'était vendu à Drouot avec l'expert Emmanuel Rau, qui est un grand spécialiste en France des manuscrits.
Oui.
Et puis un, bien sûr, on se souvient de l'histoire, qui avait été acheté le 15 décembre 1981 à la salle Rameau à Versailles et acheté par le célèbre Serge Gainsbourg.
Oui.
Alors lui, il voulait, parce qu'il venait d'une famille d'immigrés, il voulait avoir un morceau de l'hymne national, c'est un morceau de la France. Ça a soulevé beaucoup d'encre. Tous les anciens combattants qui s'étaient déjà offusqués de sa chanson lui avaient fait un procès pour avoir insulté les versets patriotiques changés en fameux etc. version reggae.
Oui, sauf qu'il se défend, on se souvient de cette grande archive face aux parachutistes, oui. Et il dit mais j'ai redonné à la Marseillaise son sens originel.
Absolument, ça c'est la grande phrase de Serge Gainsbourg, mais surtout il remportera la victoire au tribunal face à ses contradicteurs qui lui expliquaient d'avoir insulté finalement l'hymne patriotique, et lui amènera au tribunal devant monsieur le juge le manuscrit original qu'il avait acheté, qu'il a acheté en 1980 quelques mois plus tard. Eh bien, et on constatera sur le manuscrit original que Rouget de Lisle avait écrit, pour ne pas recopier son refrain autant de fois qu'il existait, il avait écrit de sa propre main Rouget de Lisle, ETC, etc. Et à partir de là, les juges constateront, diront, mais même Rouget de Lisle utilisait déjà cette formule.
Très belle histoire, ce manuscrit toujours aux mains de la famille Gainsbourg.
Alors, j'ai vérifié auprès de Laurent Ballandra, qui est l'homme de confiance des manuscrits de Serge Gainsbourg auprès de Charlotte Gainsbourg, et il m'a confirmé, il y a même pas 24 heures, il m'a dit, mais il est toujours en possession de la famille, rue de Verneuil, c'est un manuscrit important dans l'histoire de Gainsbourg aussi.
C'est une grande histoire. Je renvoie à votre livre « Histoire des manuscrits de la chanson française », qui est passionnant, dans lequel vous allez découvrir une autre histoire fameuse, celle de la chanson de Brel, dont on parle juste après Amsterdam.
Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui dorment comme des oriflammes. Le long des bergements.
Si vous aimez cette chanson, c'est pour vous ce soir. C'est le seul enregistrement qui existe.
La version que vous entendez, absolument, Wendy, c'est le seul document sonore qui existe de cette chanson, puisque Brel n'a jamais voulu l'enregistrer, comme on l'appelait ça, en studio, c'est-à-dire une version propre, etc.
Donc elle date de quand, celle-ci ?
1964, son Olympia, en 64. Et c'est la maison de disques de Jacques Brel à l'époque qui, à son insu, a glissé des micros sur la scène. Ils ont relié celui du chanteur à la console, on était en mono à l'époque, et qui ont mis des micros comme ça trois soirs de suite pour avoir une version propre de Amsterdam. Alors évidemment, ça avait soulevé un tollé. Jacques Brel était furieux quand il a appris
qu'on
ça.
A cette trace,
et puis
dit.
Finalement, après, il était très content. Le disque s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires, le fameux Amsterdam de Brel, en 1964. Et le manuscrit s'est vendu il n'y a pas très longtemps, le 8 octobre 2008. L'original, entre 17h et 19h, c'était chez Sotheby's. Et c'était à la suite, c'était Sylvie Rivet, c'est Sylvie Rivet. On n'en parle pas vraiment dans l'entourage de Jacques Brel, mais elle a été sa compagne pendant une dizaine d'années. Et c'est elle qui avait récupéré plein d'affaires, les petits cahiers de Jacques Brel, etc.
Les petits cahiers d'écolier
où il écrivait toutes ses petites chansons au stylo bille, il les reprenait, etc. Et elle a tout vendu à sa disparition. Ses neveux, ils étaient une trentaine, neveux et nièces, et ils se sont partagés un butin de 2 800 000 euros à peu près. Rien que le manuscrit de Amsterdam a fait 108 750 hors frais. Il faut rajouter à peu près 25% de frais sur une vente, sur un prix tapé au marteau. Il y avait trois manuscrits de la chanson Mathilde qui est parti à 72 000 euros. Il y avait aussi chez ces gens-là qui est parti à plus de 60 000 euros. Et puis tout un cahier à 78 000. Bref. Et l'État a fait ce qu'on appelle un droit de préemption, notamment sur la première guitare de Jacques Brel. C'est la fameuse Cité de la musique, donc le ministère de la Culture, qui s'est opposé. Alors, vous savez ce qu'on appelle le droit de préemption ? Oui. C'est quand le dernier qui lève la main dans la salle et qui demande à avoir finalement et à acheter la guitare, il y a quelqu'un au fond de la salle qui représente l'État et qui dit préemption, droit de préemption. Et c'est l'État qui, sur la dernière offre, finalement, achète au prix du dernier, celui qui a levé la main.
On a quelques secondes pour terminer. Puisqu'on avance dans l'histoire, on parle des manuscrits. À un moment donné, on a cessé de prendre la plume pour écrire et puis on a commencé à taper à la machine. On appelle ça comment donc ?
On appelle ça un tapuscrit. Quand c'est un manuscrit original.
Alors, c'est logique.
L'angoisse que vont avoir les historiens comme moi sur les 50-60 prochaines années, qu'il n'y a plus de pratiquement de manuscrits, encore moins de tapuscrits.
Ouais.
Parce qu'on est là sur des feuilles sorties à l'ordinateur. Alors quand il y a encore des notes manuscrites de la main de Christophe Maé, de la main de grands auteurs, compositeurs aujourd'hui, je pense à Clara Luciani, qui font des choses un petit peu à la main. Alors peut-être que dans 80 ans...
Oui, laisser des traces, les amis.
Laisser des traces, même sur les tapuscrits, c'est très important.
On va terminer avec un petit succès à l'international. Ouais. Enfin, un petit succès. Un gros succès à l'international. Écoutez, ça vous dit quelque chose. Très très vite, Fabien, sur cette histoire de Lennon.
C'est-à-dire, Lennon, c'est celui qui cote le plus au monde. Là où les chansons s'arrachent quand elles sont manuscrites de sa main, ça va entre 1 200 000 euros ou environ 2 800 000 euros
feuille. C'est le record.
C'est le record absolu et je pense à un manuscrit de Lennon de 1965 et c'est vraiment, c'est important et c'est lui qui a le record du monde.
Merci infiniment Fabien Lecoeuvre, une chanson dans la tête et ses manuscrits, l'histoire des manuscrits de la chanson française à retrouver aux éditions...
Aux éditions Editel.
Editel, merci beaucoup. À suivre le grand journal jusqu'à 20h avec 19h15, l'ouverture des enchères pour la 5G. Du côté des opérateurs, on se bouscule. Orange, Bouygues, SFR et Free, on en parle. Et pour le grand débrief à 19h30, je recevrai Pascal Perrineau et la maire de Morlaix, Agnès Lebrun.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Wendy Bouchard.
Et c'est l'heure du journal de Sophie Echen à 19h. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
19h, une minute.
On est anéanti, j'ai plus rien quoi, j'ai plus de lieu pour me poser. Il n'y a plus un endroit de sec, de propre, voilà, c'est fini.
Au lendemain des violentes intempéries qui ont frappé la Côte d'Azur, la situation s'améliore légèrement. La décrue a commencé, mais elle prend du temps. Les inondations ont fait 2 morts et 4 personnes disparues.
Le ministre de l'Intérieur était sur place cet après-midi. Christophe Castaner s'est voulu rassurant envers les élus et les sinistrés.
Permettre aux femmes battues de débloquer leur épargne salariale, une proposition de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ce matin sur Europe 1, qui ne fait pas l'unanimité.
On se demande à quoi va ressembler un formulaire débloquer son épargne avec des cases à cocher pour savoir si on est assez victime.
2 morts et 5 blessés, dont un grave, dans l'incendie d'un immeuble au sud de Paris. Le bâtiment était ancien, mais il n'était pas en mauvais état.
Et puis, direction le littoral normand, à la fin de ce journal, sur les sentiers du GR21, qui a été élu randonnée préférée des Français.
Vous vous sentez à la fois un géant parce que vous êtes au-dessus de la falaise, et puis tout à coup, vous êtes au creux d'une valeuse sur une plage au pied de cette falaise, vous vous sentez tout petit.
C'est le Grand Journal d'Europe 1. Merci de votre écoute et de votre fidélité.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le retour à la normale s'amorce donc doucement dans le sud-est après les très fortes précipitations qui ont frappé la région ces 2 derniers jours. Le Var seulement est maintenu en vigilance orange inondation ce soir.
On compte 2 morts et 4 personnes disparues. Bien évidemment, des milliers de personnes secourues et évacuées. Marie-Josée a été recueillie dans un gymnase de Fréjus avec son chien. Cette dame de 62 ans vivait dans un mobil-home car sa maison était inhabitable depuis les inondations de 2014. Son mobil-home est donc lui aussi inaccessible. En 10 ans, c'est la 4e fois qu'elle est victime de telles inondations. Une nouvelle fois, Marie-Josée a tout perdu.
Ah bah, c'est clair, parce que bon, j'ai donné toutes mes économies pour pouvoir me racheter cette maison. Quand on a commencé à subir les inondations, on n'y croyait pas. On se disait, 2010, ce qui nous est arrivé, là, c'était un peu comme la crue qu'on vient de subir. Et puis ça a remis ça en 2011, ça a remis ça en 2014. On est anéanti. On perd tout, on perd tous ses repères, on perd tous ses souvenirs, on n'a plus rien, il faut tout recommencer.
Vous avez essayé de reconstruire ?
J'ai essayé, mais il y a eu de nouveau l'inondation qui m'a tout repris. Actuellement, j'avais presque plus rien dans la maison puisqu'elle était parfaite de 2014. J'ai dû racheter un mobil-home, il est anéanti mon mobil-home, il a été inondé à une hauteur folle. Et bon, j'ai plus de literie, j'ai plus rien quoi, j'ai plus de lieu pour me poser. Il n'y a plus un endroit de sec, de propre. Voilà, c'est fini. Il faut essayer de trouver des moyens. Et je ne les ai pas, malheureusement. Alors, comment faire ?
Marie-Josée qui a tout perdu au micro de Jacques Terrance pour Europe 1. Frédéric Michel, bonsoir à vous. On vous retrouve dans le sud-est, dans le Var précisément, où ce soir, on le disait, le dernier bilan fait état de 2 morts et de 4 disparus.
Effectivement, Wendy, un bilan encore provisoire et pour tout vous dire, un peu flou. Hein, ce matin, 2 corps sans vie ont été découverts dans le Var, l'un à Cabasse. Il s'agit d'un homme retrouvé dans son véhicule. Un autre corps a été découvert au Muy, à proximité de la zone où une embarcation des pompiers a chaviré hier soir. Une personne avait été portée disparue, mais on ignore s'il s'agit bien de la même personne que l'on a retrouvée. Et puis le ministre qui a donné ces chiffres évoque la disparition de 4 autres personnes. Un habitant de Saint-Antonin-du-Var, âgé de 77 ans, disparu depuis samedi matin. Un couple de septuagénaires, originaire de Grasse et qui n'a plus donné de nouvelles depuis samedi soir. Ils se rendaient chez leur fils dans la commune du Tanneron, dans les Alpes-Maritimes. Christophe Castaner a évoqué une 4e disparition, sans donner plus de renseignements. Mais il suffit de voir les images, hein, l'étendue des dégâts dégâts et des zones sinistrées pour comprendre qu'il est encore difficile à cette heure d'avoir une vue précise de la situation. Comparé aux intempéries de Draguignan en 2010 et Cannes et Antibes en 2015, où des pluies diluviennes s'étaient abattues sur des zones précises et restreintes, cette fois, et c'est du jamais vu, ce sont des territoires entiers qui ont été touchés. Et pour le moment, même s'il faut rester prudent, on est loin des bilans de l'époque, à chaque fois plus d'une vingtaine de morts. C'est peut-être grâce aux campagnes de prévention, aux travaux des voiries, de nettoyage des cours d'eau entrepris, mais aussi car le phénomène météo a été moins soudain.
Frédéric Michel dans le Sud-Est pour Europe 1. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'est rendu dans le Var et les Alpes-Maritimes cet après-midi auprès des sinistrés et des élus avec un double message, la solidarité et la promesse d'une meilleure mise en œuvre de la prévention.
La solidarité nationale sera au rendez-vous. Avec Elisabeth Borne, nous veillerons à convoquer dans les meilleurs délais la commission qui devra se prononcer sur l'état de catastrophe naturelle. Évidemment, j'appelle chacune et chacun qui peut constater des dégâts à commencer à faire un état des lieux de ces dégâts, à faire des photographies, à préparer le dossier. Et les communes seront accompagnées par les préfets pour faire cette demande de reconnaissance de catastrophe naturelle. J'ai été aussi interpellé par les élus sur la mise en œuvre des procédures de protection, et notamment sur les délais de mise en œuvre de ces papiers. J'ai échangé il y a quelques instants encore avec Elisabeth Borne, qui a demandé une mission d'inspection pour faire en sorte que nous puissions aller plus vite dans la mise en œuvre de ces mesures de protection, pour faire en sorte que nous fassions bien. Mais que nous fassions mieux et plus vite, c'est absolument indispensable. C'est un message que j'ai entendu de la part des élus et c'est un message sur lequel nous serons présents.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Il est 19h06, la suite du journal. Sophie Etienne, Wendy Bouchard.
Avec à la une le Grenelle contre les violences conjugales. Il s'achève demain soir, 2 mois et demi de travail et des discussions. Et le gouvernement qui s'apprête donc à dévoiler demain une série de mesures pour lutter contre ce fléau.
Et parmi les idées retenues, pourquoi ne pas permettre aux victimes de violences de débloquer leur épargne salariale? C'est en tout cas ce que propose la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Elle était l'invitée du grand rendez-vous, rendez-vous européen CNews Les Échos ce matin.
Avec le groupe de travail qui s'est mis en place pour ce Grenelle, avec des responsables d'entreprise, avec des partenaires sociaux, avec les associations, on a travaillé et moi je porte avec ce groupe de travail une idée qui est qu'on a l'épargne salariale pour les victimes de violences, de pouvoir le débloquer. Quand vous êtes victime, il y a besoin d'argent d'urgence.
Mais c'est possible ou c'est pas possible?
Pas aujourd'hui. Mais ça, c'est un des sujets que je porte avec ce groupe de travail.
Ce qui veut dire que demain, par exemple, ça peut faire partie des annonces.
Ça fera partie des sujets qu'on discutera demain.
Et qui pourront être annoncés demain.
Eh ben, on verra, mais on le porte très fort.
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, sur Europe 1. La question maintenant, vous l'avez entendu, une telle mesure est-elle possible? Sera-t-elle surtout véritablement utile? Pas si sûr. Écoutez Fatima Benomar du collectif féministe Nous Toutes.
Du côté de nous toutes, on est absolument réticente. On se demande à quoi va ressembler un formulaire débloquer son épargne avec des cases à cocher pour savoir si on est assez victime. Enfin, pour nous, on trouve très étrange de toujours trouver des solutions qui reposent sur la victime. Pourquoi ne pas plutôt créer des places d'hébergement pour accueillir les femmes qui en ont besoin? Tout le monde n'est pas à égalité face à l'épargne. Et donc, ce n'est pas possible d'inscrire une nouvelle inégalité selon les femmes qui ont une épargne ou pas. Et donc, non, l'État doit assumer sa fonction de redistribuer l'impôt en fonction des principes qu'il défend. Et comme c'est la grande cause nationale, quand même, la lutte pour l'égalité femmes-hommes et contre les violences faites aux femmes, il doit réserver un budget pour ça.
Fatima Benomar répondait à Jiane Bergaoui pour Europe 1.
Un incendie meurtrier cet après-midi dans un immeuble à Ivry-sur-Seine, au sud de Paris, Sophie.
Deux personnes ont été tuées dans l'embrasement d'un appartement muré. Une autre a été secourue en urgence absolue. On compte également 4 blessés légers, dont un enfant. Le feu s'est déclaré dans un immeuble de 4 étages, un bâtiment qui était voué à la destruction mais qui n'était pas vétuste, selon le maire de la ville.
On va terminer avec le GR21, élu sentier de randonnée préféré des Français, peut-être vous.
190 km de balade sur la côte d'Albâtre entre Le Havre et Tréport. Il succède au GR31 de La Réunion. Et pour savoir ce que cette randonnée a de plus que les autres, Pierre Herbulot s'est rendu sur une portion du GR21 pour Europe 1.
545 km, c'est la distance parcourue en voiture par Patrice et Liliane pour en parcourir quelques-uns de plus à pied sur le littoral normand. Ce couple de retraités bourguignons est sous le charme.
Voilà, on voit une superbe falaise dans le soleil avec la plage tout en bas.
Il y a un à-pic qui est phénoménal. Elles ont une couleur de calcaire, donc blanche, qui ressort avec la lumière et la couleur de la mer et du ciel. Là, c'est superbe.
Un panorama splendide chaque jour de l'année pour Cyriac Le Tuilier, guide nature dans la région.
Sous la pluie, en soleil levant, par temps calme et brumeux,
par tempête, avec des vagues.
C'est tout simplement la plus belle randonnée du monde, dit-il, pour les sensations qu'elle procure.
Des sentiments de liberté, de quiétude, de tranquillité. Vous vous sentez à la fois un géant parce que vous êtes au-dessus de la falaise, et puis tout à coup, vous êtes au creux d'une valeuse sur une plage au pied de cette falaise, vous vous sentez tout petit.
La mairie d'Étretat compte sur ce titre de rando préféré des Français pour décrocher un label qui lui permettra de mieux protéger le littoral, abîmé par plus d'un million de touristes chaque année. Sur le GR21 en Normandie, Pierre Herbulot, Europe 1.
Et c'était Sophie Echenne qui vous informait. On vous retrouve à 19h30. Sophie, pour l'essentiel de l'actualité.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
Comment ça se passe pour ce début de semaine, Valérie Darmon, on vous écoute.
Eh bien, c'est la valse des perturbations par l'Atlantique cette fois. Alors déjà ce lundi, petite perturbation pluvieuse qui traverse les deux tiers de la France et qui épargne les régions s'étendant des Pyrénées à la Méditerranée jusqu'aux frontières de l'Est. Mardi, une nouvelle perturbation atlantique concerne tout l'ouest du pays avec beaucoup de pluie et un coup de vent envisagé entre la Vendée et les côtes bretonnes en soirée. Et à l'avant, vous bénéficierez d'un temps plus calme, notamment des Pyrénées aux frontières de l'Est. Mercredi, c'est les trois quarts du pays qui passeront sous l'influence d'un régime océanique perturbé avec des pluies et du vent de nouveau. Les cumuls sont de nouveau à surveiller aussi parce qu'ils s'annoncent importants et près de la Méditerranée, vous resterez toujours à l'écart du mauvais temps. C'est vendredi qu'une accalmie temporaire est attendue sur les régions centre, entre les pluies qui s'évacueront par l'est et d'autres qui arriveront par l'Atlantique. Les températures qui sont globalement en hausse jusqu'en milieu de semaine baisseront pour le week-end prochain.
Merci Valérie Darmon. 19h11, place au journal des sports, Wendy Bouchard.
On retrouve Simon Rubin sur Europe 1 et on commence avec du foot pour cette 14e journée de Ligue 1. On avait droit à ce match Saint-Étienne-Montpellier.
Et on ne va pas se mentir, on a eu droit à une rencontre dopée à la mélatonine entre Saint-Étienne et Montpellier. Quelques beaux arrêts des deux côtés, certes, mais pas d'emballement, peu de brio. Anthony Perel, ça se termine avec un sublime 0-0.
Oui, 0-0, score plutôt logique, presque flatteur pour la SS, car la meilleure équipe de Ligue 1 depuis 5 journées devant le PSG, rien que ça, n'a pas existé cet après-midi contre Montpellier. Les Verts peuvent remercier leur gardien Stéphane Ruffier, auteur d'un match sensationnel. Le portier stéphanois a écœuré Gaëtan Laborde à deux reprises, en sortant une frappe au ras du poteau en première mi-temps, puis une tête surpuissante dans le second acte. Seule grosse situation pour Saint-Etienne, une frappe sur la barre transversale d'Arnaud Nordin. Et finalement, ce match nul ne fait l'affaire de personne. La SS porte à 10 sa série de matchs sans défaite, mais n'avance pas vraiment. Montpellier ne gagne toujours pas à l'extérieur cette saison et les deux formations ratent l'occasion de monter sur le podium.
Anthony Perel depuis Saint-Étienne et un peu plus tôt dans l'après-midi, Bordeaux a battu Monaco 2-1 et monte provisoirement sur le podium de la Ligue 1.
Ce soir, Simon l'affiche pour la course au podium, c'est la rencontre Toulouse-Marseille.
Match à suivre en intégralité sur Europe 1 évidemment. Les Marseillais ont une belle carte à jouer pour maintenir le cap et conserver leur deuxième position. Des Marseillais privés de plusieurs joueurs et qui devront être à 100% de leur capacité pour espérer gagner. C'est l'analyse de notre consultant Alain Roche.
La charnière centrale et défensive de l'OM ne joue pas. Ce qui va obliger Villas-Boas à faire redescendre le jeune Camara en défenseur central. Donc réorganiser son équipe dans le cœur du jeu. Même si Strootman sûrement réintégrera le milieu de terrain. Mais on attend confirmation de Marseille. Elle a élevé son niveau de jeu face à Lyon. Et cette équipe a besoin d'être à ce niveau d'exigence et d'implication. Si elle veut s'imposer, dès qu'elle se relâche, elle est en grande difficulté.
Alain Roche au micro de Cyril de la Morinerie. Toulouse, Marseille, coup d'envoi 21h.
Dans le reste de l'actualité du sport, le rugby, le tennis, c'est bonne première en ski.
Une bonne première épreuve de slalom, effectivement, pour le français Clément Noël. Pas passé loin de la victoire. À Lévi, en Finlande, il termine deuxième à moins d'un dixième du vainqueur. En rugby, 2-6 pour les clubs français. Après Toulouse hier, c'est Montpellier qui l'emporte contre Gloucester aujourd'hui. La Rochelle, quasi éliminée en revanche après sa défaite à Sale. Et puis en tennis, la nouvelle Coupe Davis, la finale Canada-Espagne. Les Espagnols virent en tête après le premier simple et on attend maintenant Raphaël Nadal.
Merci Simon Rubin.
À suivre dans le Grand Journal du Soir, Wendy.
L'ouverture des enchères pour les opérateurs de téléphonie mobile pour déployer la 5G dans les années qui viennent. La 5G, ça évitera par exemple que je rippe normalement. Que va changer cette technologie et comment les acteurs s'y préparent? Ça ira beaucoup plus vite. On fait le point dans une minute sur Europe 1.
Il est 19h16 et nous sommes avec Wendy Bouchard dans ce grand
Grand Journal du Soir, eh bien on va parler maintenant d'un sujet qui concerne notre avenir connecté.
Un nouveau monde serait-il à portée de main avec le réseau 5G, des débits 10 fois plus importants que la 4G et sur l'ensemble du territoire, on l'espère, et rapidement. La France a lancé cette semaine les enchères pour l'attribution de ces fréquences. Bonsoir Arthur Dreyfus.
Bonsoir.
Vous êtes président de la Fédération française des télécoms. Que signifie d'abord ces enchères? C'est une compétition entre les différents opérateurs de téléphonie mobile?
C'est une compétition en effet entre les 4 opérateurs de téléphonie mobile pour demain avoir accès aux fréquences et donc pouvoir déployer et commercialiser cette nouvelle technologie qu'est la 5G.
Orange, SFR, Bouygues et Free, qui peut emporter le maximum de parts et comment la répartition va-t-elle se faire?
Ça, nous le verrons bien, c'est une compétition, donc ce sera une bataille certainement entre les 4 opérateurs, mais le processus est construit de telle sorte que les 4 opérateurs sont, s'ils candidatent, oui, sont certains d'avoir un minimum de fréquence.
Avec les annonces toutes récentes de la secrétaire d'État en charge de cette transition, qui nous dit que les prix à partir duquel les enchères doivent démarrer seront des prix raisonnables. Vous le constatez aussi ?
Pas vraiment. Oui. J'allais justement vous dire que nous sommes rentrés dans un processus un peu incohérent, voire déraisonnable. Incohérent parce que ce n'est pas vraiment en ligne avec tout ce qui avait pu nous être annoncé. Et déraisonnable parce que nous sommes dans une équation, à vrai dire pour la première fois, où nous n'avons jamais eu autant d'obligations de déploiement en cours pour la 4G, en cours pour la fibre, demain sur la 5G, avec un prix d'enchères, de démarrage des enchères aussi élevé. Donc autant nous sommes très satisfaits que le process avance, nous sommes très satisfaits de pouvoir bientôt lancer la 5G, mais nous sommes un petit peu inquiets aujourd'hui à la veille du lancement de ces enchères, avec un certain nombre de points qui restent à clarifier, notamment sur le sujet des équipementiers.
Ça veut dire que plus l'opérateur sera puissant, plus il aura d'argent, plus il aura de fréquences, a priori ?
C'est effectivement potentiellement le principe, mais c'est une compétition, donc nous verrons bien ce que cela donnera.
En tout cas, on était à la traîne en France, hein, par rapport à la Corée du Sud, par rapport à la Chine, et en Europe, par rapport au Royaume-Uni ou en Espagne. Les pouvoirs publics ont-ils attendu trop longtemps, de votre point de vue, pour développer cette technologie ?
En tout cas, nous, ça fait 18 mois qu'on s'y prépare. Mmh. Ça fait 18 mois qu'on multiplie les expérimentations, que ce soit à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes. On a multiplié les expérimentations pour être prêts à lancer la 5G. Donc, nous étions impatients que le process avance. Néanmoins, nous sommes un peu inquiets au regard des annonces qui ont été faites. Comme je vous l'ai dit, incohérence, assez déraisonnable. Et inquiets aussi parce que nous avons un besoin impérieux de clarification, parce qu'il y a un grand flou autour du choix que nous pourrons faire en matière d'équipementier. Tout le débat actuel autour des équipementiers Huawei notamment. Mmh. Et si demain un équipementier était amené à être interdit sur le territoire, nous prendrions encore plus de retard. Et des retards de plusieurs années ne seraient pas acceptables. Pas acceptables pour les Français, pas acceptables pour les territoires, pas acceptables pour les entreprises. Donc nous sommes très soucieux et nous demandons expressément au gouvernement, aux régulateurs, de clarifier ce sujet des équipementiers avant le lancement des enchères.
Qu'est-ce que ça va changer pour nous, citoyens, après avoir porté la voix des opérateurs que vous représentez, Arthur Dreyfus? On sait que la connexion, au lieu de se faire en moyenne à 27 secondes, se ferait en 0,01 seconde, c'est-à-dire en temps réel quasiment. Un débit qui permettra la télémédecine, la chirurgie à distance, les voitures autonomes connectées, enfin un nouveau monde vraiment qui s'ouvrirait?
Oui, c'est une rupture technologique. On a connu la 3G, on a connu la 4G. Et aujourd'hui, la 5G va véritablement permettre de nouveaux usages. Vous le disiez, 10 fois plus rapide, avec un temps de réactivité 10 fois plus important, ce qui va permettre de gérer la maison connectée. Aujourd'hui, vous avez 4-5 objets connectés. Demain, vous en aurez des dizaines dans chaque foyer. Ça va permettre de gérer la maison connectée, effectivement, dans certaines industries comme le transport, comme la logistique, comme la médecine, comme l'agriculture. Ça va permettre une révolution technologique. Donc c'est pour cela que nous sommes impatients de pouvoir lancer la 5G.
Alors que certains captent peut-être très bien Europe 1 ce soir, mais ont du mal à passer leur propre conversation téléphonique dans ce qu'on appelle les zones blanches. Il y a 5000 zones encore en France. La 5G, ce sera la fin de ces zones blanches pour chacun?
Non, les zones blanches, nous sommes en train de régler le problème. Nous sommes engagés sur un programme inédit qui est appelé le New Deal pour donner accès en 4G à tous les Français. Nous investissons 10 milliards d'euros par an. 10 milliards d'euros, on est certainement à la tête des chantiers d'infrastructures les plus importants du pays en déployant la 4G, en déployant la fibre optique à travers tout le territoire également. Demain, la 5G. Donc, nous avons des investissements colossaux à faire demain. Nous ne pourrons pas les faire si les enchères sont trop importantes. Nous ne pouvons pas cumuler les obligations sans cesse. Donc, il va falloir faire des choix. Nous avons besoin de clarté pour prévoir ces investissements. Quand on investit C'est pas pour 6 mois, c'est pas pour 18 mois, c'est pour 10, 15 ans. Donc nous sommes à la veille de faire ces investissements colossaux, tout en sachant qu'on en fait déjà de très importants. À vrai dire, la France a beaucoup de chance d'avoir des opérateurs télécoms comme nous, parce que nous sommes des opérateurs responsables qui investissons massivement, alors que sur un marché avec des prix particulièrement bas.
Mais ce qu'on a envie de savoir, Arthur Dreyfus, c'est si moi je suis cliente ou de SFR, ou d'Orange, ou de Bouygues, ou de Free, est-ce que j'aurai demain accès, comme les autres opérateurs et clients d'opérateurs, à la 5G ? Ou est-ce qu'il y aura une distorsion d'accès ?
Les investissements en 5G seront nécessairement progressifs. Déjà, réglons le problème de la 4G pour tous les Français. Mmh. Il y a encore des zones blanches. Nous allons régler le problème des zones blanches d'ici fin 2020. Nous avons des engagements sur la fibre optique, très importants également pour la connectivité des Français que nous sommes en train d'honorer dans les toutes prochaines années. Donc la 5G, le déploiement va se faire progressivement. Mais pour pouvoir le faire, nous avons besoin d'être rassurés sur les équipementiers que nous pourrons choisir et sur les calendriers de déploiement.
Lesquels sont à votre disposition aujourd'hui en termes d'équipementiers ?
Aujourd'hui, les opérateurs français travaillent avec 3 équipementiers, Nokia, Ericsson et Huawei. Mmh. Nous avons travaillé avec eux en 3G, en 4G. Et il est urgent de savoir ce que nous aurons le droit de faire. Sinon, encore une fois, la France va prendre des retards considérables. La concurrence importante pour les Français va se voir affaiblir. Donc il est urgent pour nous d'avoir des clarifications à la matière.
On aura le temps de reparler des craintes soulevées pour la santé. Est-ce qu'on peut en quelques mois, Arthur Dreyfus, est-ce qu'on doit avoir plus peur de la 5G que de la 4G ou de la 3G au niveau des fréquences et de l'exposition de nos corps, de nos organismes à ces fréquences ?
Toute nouvelle technologie pose nécessairement question, mais les organismes de contrôle sont là pour y répondre. Et nous, opérateurs télécoms, nous respectons nécessairement toutes les réglementations. Et la 5G va permettre d'avoir des antennes plus intelligentes. Donc il y a matière à rassurer nos téléspectateurs en la matière.
Et vous attendez des éclaircissements de la part du gouvernement sur le choix des équipementiers, on l'a bien compris. Merci Arthur Dreyfus, président de la Fédération française des télécoms, alors que les enchères pour l'attribution de ces fréquences sont ouvertes désormais.
Merci beaucoup.
Il est 19h23, Wendy. Voici Planète Sauvage. Sur Europe 1, l'actualité des animaux en 4 minutes.
Avec d'abord ces annonces du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. C'était dimanche dernier. Il lance une mission parlementaire sur les abandons d'animaux de compagnie. La France, vous le savez, détient le triste record européen en la matière. 100 000 abandons de chats et de chiens chaque année. La mission devra déterminer chaque situation pour comprendre et pour déterminer aussi les règles et les sanctions relatives.
Mercredi prochain à Lyon, un grand congrès d'information sur la douleur animale.
Congrès à votre initiative, vous qui êtes vétérinaire et en formation un petit peu partout sur le territoire sur ce sujet. Bonsoir Thierry Poite.
Bonsoir.
Vous avez créé, Thierry, le réseau Cap Douleur. D'abord, à qui est-il réservé ce réseau ?
Pour l'instant, le réseau Cap Douleur s'adresse essentiellement à la prise en charge de la douleur sur les animaux de compagnie. D'accord. Mais on est en train de tisser des liens avec les vétérinaires équins et le monde rural pour faire un cap douleur rural et un cap douleur équin. Mais pour l'instant, on est surtout focalisé sur les animaux de compagnie. On cherche à tisser des liens forts avec la médecine humaine. Donc on est vraiment dans des échanges.
Qu'est-ce qui a changé ces 5 dernières années dans la prise en charge de cette douleur pour vous ?
En fait, on est parti du constat qu'effectivement, dans le monde vivant, on partage la douleur avec les animaux. Et on partage avec les professionnels de santé ce devoir éthique qui est celui de prendre en charge la douleur. Mais on ne peut pas nier qu'il y a eu des freins de prise en charge, un peu comme dans le monde humain aussi, avec la négation de la douleur chez le bébé jusque dans les années à peu près 70-80. Et donc, ce que l'on essaie de faire, c'est dépasser ce cœur de métier, la douleur, la prise en charge de la douleur, cœur de métier qui est revendiqué, et on essaie de le transformer en cœur de compétence en formant les vétérinaires à toutes ces nouvelles techniques de prise en charge et surtout ces nouvelles techniques également d'évaluation de la douleur.
On la mesure déjà bien, cette douleur, dans les cabinets vétérinaires, Thierry Poite ?
On l'évalue plus qu'une mesure, parce que ça reste toujours subjectif. Ça fait depuis 8 ans qu'on essaie de sensibiliser les vétérinaires à faire cette étape qui peut paraître un peu rébarbatif. Il y a beaucoup de confrères qui ont tendance à l'évaluer. Vous savez, il a mal, il a pas mal. C'est plus subtil que ça. Il faut évidemment qu'on fasse des scorings, mais il faut surtout qu'on s'intéresse à la qualité de cette douleur. Mmh. Parce qu'on sait qu'il y a des douleurs inflammatoires, des douleurs neuropathiques, et il faut s'appuyer sur la description que font les propriétaires des caractéristiques de la douleur.
Bien sûr. Dans ces cas-là, comment on accompagne l'animal qui souffre ? Et je parle d'un accompagnement qui ressemble aussi à un accompagnement de soins de vie pour l'humain. On a un protocole, on a des médicaments à lui administrer.
Oui, on s'est longtemps contourné à des anti-inflammatoires. Mmh. Bon, maintenant, on a accès à des morphiniques. On a accès aussi, et ça c'est très très enthousiasmant, aux nouvelles technologies, je pense aux anticorps monoclonaux, aux biothérapies, aux cellules souches. Mmh. Et puis n'oublions pas aussi toutes les mesures non pharmacologiques, donc je pense notamment à la physiothérapie. c'est pas qu'une histoire de médicaments, c'est tout un état d'esprit et une approche holistique de la douleur.
On sait tous que la sensibilité animale est un sujet de préoccupation assez aigu aujourd'hui. On sait aussi qu'il y a un marché en face. Comment faire la part des choses, Thierry, et se dire, bon, il faut raison garder, soulager son animal, mais ne pas non plus faire fructifier un marché qui peut être très très important pour les laboratoires et les vétérinaires.
C'est vrai qu'il y a des enjeux commerciaux qui ne sont pas vraiment en accord avec l'éthique de la prise en charge de la douleur. Et c'est pour ça que depuis le début de notre petit entretien, j'insiste sur le fait que ce n'est pas qu'une histoire de médicaments.
Oui.
Donc il y a d'abord ces pratiques évaluatives, et puis il y a ce besoin de certes utiliser parfois les médicaments, mais il y a aussi tous les soins intentionnés que peut donner le propriétaire, déjà dans l'observation, dans l'accompagnement de l'animal, en préconisant tout simplement des massages pour les chiens arthrosiques. Donc c'est pas forcément lié à une exploitation d'un marché, parce que là on s'éloignerait quand même d'une éthique de prise en charge.
Et donc grand congrès, journée d'information et de formation, mais surtout d'information, vous nous le disiez, mercredi prochain à Lyon en la matière. Pour plus de références, vous allez sur votre site internet Cap Douleur. Merci beaucoup.
Merci.
Et puis on termine, Wendy, avec cette enquête très sérieuse menée par le site Rover, plateforme de pet sitting, une plateforme de garde animaux de compagnie.
Très sérieuse parce que ça peut vous faire sourire vu comme ça, mais c'est établi dans près de la moitié des couples français qui possèdent un chien. La relation s'est renforcée depuis l'arrivée de l'animal. Un tiers de ces couples déclarant passer plus de temps ensemble depuis qu'ils ont un chien.
C'était Planète Sauvage, l'actualité des animaux sur Europe 1.
À suivre notre grand débrief de l'actu, les communes sinistrées, les gilets jaunes un an après, la démocratie directe et participative. On parle de tout cela avec le politologue Pascal Perrineau et Agnès Lebrun, maire de Morlaix. Ils sont avec nous jusqu'à 20h sur Europe 1.
19h30, le grand journal du soir, la suite sur Europe 1, Wendy Bouchard.
Et les principaux titres de l'info, Sophie Echen, on vous écoute.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Le Var reste maintenu en vigilance orange inondation. Ce soir, les Alpes-Maritimes ont été rétrogradées en jaune. Après les violentes précipitations qui ont fait 2 morts et 4 disparus, selon Christophe Castaner, qui s'est rendu dans les 2 départements cet après-midi, le ministre de l'Intérieur est venu apporter son soutien aux personnes sinistrées et aux élus. Un incendie meurtrier dans un immeuble à Ivry-sur-Seine, au sud de Paris. 2 personnes ont été tuées dans l'embrasement d'un appartement muré. Une autre a été secourue en urgence absolue. On compte également 4 blessés, légers, dont un enfant. Le bâtiment était ancien, il datait des années 30, mais il n'était pas en état de délabrement, selon le maire d'Ivry. Et puis la fin du Grenelle contre les violences conjugales, demain soir. Le Premier ministre Édouard Philippe doit annoncer toute une série de mesures. Ce soir, dans une interview au Figaro, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, annonce un appel à projet pour la création de centres de prise en charge des auteurs de violences.
Merci Sophie Echen, à tout à l'heure 20h. Europe 1.
Place à présent au grand débrief de l'actu avec vous, Wendy Bouchard, jusqu'à 20h sur Europe 1.
Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Nos invités échangent sur les sujets forts de ces derniers jours et de ces dernières heures. J'accueille en studio Agnès Lebrun, maire de Morlaix. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Porte-parole de l'Association des maires de France. Il arrive dans quelques minutes Pascal Perrineau, politologue, observateur des mouvements sociaux, qui publie Le Grand Écart. Il vient de sortir chez Plon, ce livre qui, notamment, relate son expérience de garant du grand débat national. Nous allons réagir ensemble sur la manière dont le gouvernement et les élus peuvent construire la société de demain, congrès des maires de France cette année, les revendications sur le pouvoir d'achat, la colère sociale qui s'exprimera de nouveau le 5 décembre dans les rues du pays, et nous reviendrons évidemment sur ce grand mouvement Nous Toutes hier contre les violences sexuelles et les féminicides. Agnès Lebrun, je vais d'abord donner la parole à l'élu qui a entendu ces Français sinistrés ces dernières heures. Vous êtes à Morlaix, ce territoire n'a pas été touché évidemment par ces inondations, mais c'est la solidarité qui joue et c'est l'intérêt et la main tendue vers l'autre. Vous pensez à tous vos confrères, maires, sur le terrain face à cette réalité ce soir ?
Bien entendu, je pense tout particulièrement à David Lisnard, maire de Cannes, je pense au maire de hier et puis à tous les maires. Les maires sont au premier front dans ces situations. Ils sont aux côtés de leur population. Ils ont une mission de coordination, une mission de tranquillité publique, une mission de secours aux personnes. Et pour avoir connu des épisodes d'inondations très violents en 2013 et un autre plus récent en 2018, je peux dire que le maire est là vraiment sur le terrain incessamment et... C'est une expérience à la fois cruelle et dans le même temps, cela conforte, confirme et cela évite d'avoir l'idée même qu'on puisse définir le rôle et la mission d'un maire. Parce que là, ça s'impose.
Au cœur des tempêtes, vous entendiez peut-être Christophe Castaner dire que l'état de catastrophe naturelle serait peut-être déclenché plus vite que prévu, ce qui signifie une indemnisation plus rapide aussi des sinistrés.
Bien sûr, ça veut dire une indemnisation plus rapide et cela veut dire une évaluation plus généreuse d'une certaine façon des dégâts, puisque les sinistrés en général ont beaucoup de difficultés à prendre des photos, enfin bref, toutes ces démarches qui sont très très lourdes. Ils sont souvent dans une situation de stress émotionnel très très fort, ils ont perdu leurs biens, parfois ils sont inquiets pour leurs proches, enfin c'est extrêmement c'est un très grand choc pour la population, parce que en plus, moi, ce qui m'avait frappé lors des épisodes que nous avions vécu, c'est qu'on ne sait pas quand ça s'arrête. C'est-à-dire que c'est une catastrophe, mais on a reconnu récemment la catastrophe du pont qui s'est effondré, mais le pont, il s'effondre et quand il s'est effondré, d'une certaine façon, on fait le constat, on est dans le deuil, etc. Mais là, pour les inondations, on ne sait pas quand ça s'arrête.
Ce sont toutes les missions aussi que vous avez à assumer en tant qu'élu, qui ne vous empêchent pas donc de briguer un troisième mandat, parce qu'on vous retrouvera dans cette course au municipal, Agnès Lebrun, à Morlaix. Bonsoir Pascal Perrineau.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous pour relater notamment ces chroniques d'une démocratie fragmentée que vous présentez dans ce livre, Le Grand Écart, aux éditions Plon, où vous parlez notamment de votre expérience au cœur de ce grand débat national, de la démocratie directe et participative que vous avez vu éclore ces derniers mois. Je voudrais vous faire réagir à ces mots d'Emmanuel Macron, puisqu'on parlait des maires, au Congrès des maires de France, c'était mardi. « J'ai tant appris de nos échanges, dit le Président, j'ai tant appris de vous », mais il ajoute aussi combien il a besoin d'eux pour tout. Fracture territoriale, sécurité au quotidien, lutte contre le terrorisme, transition écologique, tout ça, ça fait beaucoup.
En effet, ça fait beaucoup, surtout que dans un premier temps, qui au fond était un peu l'acte 1 peut-être de la présidence Macron, le moins qu'on puisse dire, c'est que le pouvoir national et le pouvoir présidentiel n'étaient pas très sensibles aux maires, aux collectivités locales, et que dès le départ, dès l'été 2017, il y a eu des mesures, des attitudes qui ont été très mal vécues par les maires. Et d'ailleurs, il y a eu un premier signal d'alarme que personne n'avait relevé, ou presque personne. C'était dès septembre 2017, un très mauvais résultat de La République En Marche au sénatorial. Alors que quelques mois plus tôt, si vous voulez, les élus sénatoriaux, qui sont des élus locaux, des représentants des conseils municipaux, n'avaient rien de particulier contre le président de la République. Et le président de la République s'est aliéné cette catégorie importante et qui est la seule populaire en France. Il ne faut pas oublier que le seul personnel politique aujourd'hui qui dépasse très nettement les 50% de confiance, eh bien, ce sont les maires. Il n'y en a pas un autre, ni les conseillers régionaux, ni les députés, ni le président de la République, ni le Premier ministre. Personne ne dépasse les 50%. Et là, on est en train de rentrer au fond dans un acte 2 où, après le coup de semonce des Gilets jaunes, au fond, Emmanuel Macron s'en est tiré partiellement grâce aux maires. Il a organisé ce débat, ces rencontres avec les maires, qui d'ailleurs ne doivent pas être confondus avec le Grand Débat National. Le Grand Débat National, c'était autre chose. Mais il a, en effet, parcouru le territoire national à la rencontre des maires. Il s'est mis dans une situation d'écoute et d'échange. Et il a découvert, au fond, que ces maires n'appartenaient pas, pour reprendre les catégories de 2017, n'appartenaient pas au vieux monde, mais qu'ils pouvaient rendre un sacré service à un nouveau monde en difficulté.
Il revient donc sur le terrain, Emmanuel Macron, fort de ses expériences à Épernay la semaine dernière, à Amiens cette semaine, Agnès Lebrun, notamment pour voir concrètement comment s'appliquent ces décisions en termes de politique publique. Je pense à ces maisons France Services qui doivent réunir un petit peu les services publics. Ce concret-là, vous êtes les premiers à l'attendre comme élu. J'imagine.
Je pourrais reprendre à mon compte à peu près tout ce que vient de dire Pascal Perrineau, parce qu'en effet, il y a eu un premier acte où on a quand même entendu un président de la République parler de clientélisme. Clientélisme, c'est un terme qui a un sens extrêmement péjoratif, bien entendu, mais surtout qui dénote une méconnaissance totale de ce que l'on fait sur le terrain. Et puis, il y a eu ce grand coup de froid hivernal de la crise des Gilets jaunes où on a tenu la Maison France. Certains ont dit qu'il avait été terrifié, enfin peu importe, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a eu, il a été un peu ébranlé par cette situation et nous avons à ce moment-là aidé à la cohésion nationale. Et puis donc
il y a
une espèce de regain d'intérêt avec la volonté de nous donner, enfin de comment dire, de renouer un dialogue. Mais je crains, pour ma part, qu'ils ne confondent déconcentration et décentralisation. Ce n'est pas du tout la même chose. De mettre des services en plus, qui existaient déjà pour certains, d'ailleurs, parce que les maisons, il y avait déjà des maisons de ce type qui existaient. Je ne suis pas sûre que ça soit... Ça reste très vertical. Et c'est ce que les maires ont entendu au Congrès. C'était un discours d'1h40.
Oui.
On sentait qu'il y avait la volonté de l'intérêt porté à l'autre. Et il y avait néanmoins un fond de méconnaissance, mais disons qu'on peut peut-être être optimiste ou en tout cas déterminé, il suffit en se disant que ça va s'arranger.
En tout cas, elle a raison, Agnès Lebrun, Pascal Perrineau. Les maires ont tenu pendant ces mois de manifestations, les gilets jaunes, ce mécontentement pour éviter une explosion qui aurait pu être bien supérieure.
Pas complètement, parce que s'ils n'avaient pas été là, la Maison France partait à volo. Il faut se souvenir tout de même de début décembre. Le président de la République rentre d'Argentine, il débarque sur le sol national, il trouve Paris plus ou moins dévasté, et là, il est extrêmement ébranlé. Et ça n'est qu'en mettant au point cette procédure qui va durer 2 mois du grand débat national, en allant vers les maires, en les reconnaissant dans leur rôle au fond de rempart de la République. Parce que quand vous regardez les citoyens français, quand on fait soi-même son auto-analyse, on a au fond 2 patries en France. On a la patrie nationale, la France, et puis on a cette petite patrie essentielle qu'est la commune, avec le conseil municipal, le maire. Ça n'est pas pour rien qu'il y a, j'ai inventé il y a 10 ans ce baromètre de confiance politique, qui d'ailleurs maintenant est essentiellement un baromètre de défiance politique. Mais c'est encore valable pour les maires, le terme de confiance politique. Et donc, s'il n'avait pas été là, on pouvait être très préoccupé sur la capacité du pays à tenir la crise. Et on serait peut-être allé vers une crise de régime.
Oui, et vous relatez évidemment tous ces épisodes, et c'est passionnant dans ce livre, Le Grand Écart, Pascal Perrineau. Une France qui va mal, la colère sociale s'exprimera de nouveau le 5 décembre, Agnès Lebrun, face à un président qui disait à Amiens, et je le disais tout à l'heure, aux étudiants, que ça va plutôt bien, en tout cas qu'il faut être plus positif, plus optimiste dans ce pays. Vous dites attention à ce décalage de nouveau, à ce nouveau grand écart
verbe. Oui, parce que finalement le président a dit aux étudiants, comme il avait dit dans d'autres circonstances, il a le goût de la petite phrase, d'une certaine façon, quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on se console. Ce qu'on peut effectivement constater, il y a évidemment des pays, y compris d'Europe, dans lesquels on peut aller, et quand on revient en France... même des étudiants, d'ailleurs, peuvent dire « finalement, on se plaint beaucoup en France ». Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que vous devez avoir une empathie quand vous êtes élu et quand vous allez au chevet des gens, puisque là, il était au chevet des étudiants, vous n'êtes pas au chevet de quelqu'un pour lui dire « enfin, alors, monsieur, faudrait peut-être sortir de votre lit, il va falloir peut-être vous bouger ». C'est pas, non seulement c'est pas ce que veulent entendre les gens, mais c'est surtout pas comme ça que les choses s'améliorent.
Donc il a pas complètement changé quand même, Pascal Perrineau.
Il a évolué.
Il a évolué. Mais on voit bien, si vous voulez, c'est un président de la République qui n'a jamais été élu de terrain.
Bien sûr.
Voilà.
C'est la distorsion.
Il n'a jamais été élu local. Il n'a peut-être pas cette empathie qu'ont nombre d'élus locaux. Et voilà, sa carrière politique, le mouvement de disruption étonnant, absolument incroyable, qu'il a engagé en 2017, était un mouvement par le haut. Mais au fond, pour que ça réussisse vraiment, il faut qu'à cette disruption par le haut vienne répondre une disruption par le bas. Et là, on voit bien, ça ne vient pas. Ça n'est pas au rendez-vous. Et Emmanuel Macron a du mal, au fond, et pourtant c'est exigé par la fonction de président de la République. Quand vous êtes élu, vous n'êtes pas l'élu d'une France qui marche contre une France qui ne marche pas.
Oui, oui.
Vous devez, à partir du moment où vous êtes président, parler aux deux Frances.
C'est ce que j'allais vous dire.
Dans une fonction de réconciliation. Et c'est vrai que derrière les très nombreux électeurs abstentionnistes ou électeurs même qui avaient choisi de voter pour Marine Le Pen au second tour, il y a beaucoup de Français qui sont en difficulté, en souffrance.
Oui, d'où la difficulté pour lui de porter cette réforme très importante, suppression des régimes spéciaux, cette réforme des retraites, alors que vous expliquez bien, Pascal Perrineau, ce désir d'une démocratie directe, immédiate, qui reste dans les esprits. Malgré tout, on est 1 an après ces formulations, mais ça reste, ça a marqué.
Oui, parce qu'il y a une crise de fond qui d'ailleurs est un peu générale dans nombre de démocraties. Au fond, on a réinventé la démocratie telle qu'on la connaît et telle qu'on doit la garder, la démocratie représentative après la guerre sur les décombres des régimes autoritaires. Et on arrive au fond en fin de cycle. Beaucoup de citoyens, pour de bonnes et de mauvaises raisons, s'interrogent sur les limites des démocraties représentatives et cherchent confusément, au fond, dans 3 directions. comment renouveler la démocratie représentative et en France, en tout cas, sortir de cette démocratie excessivement présidentialisée. Le fait que le Parlement ne joue, pour ainsi dire, absolument aucun rôle en tant que contre-pouvoir. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. La démocratie française n'est pas mature. Et puis, il cherche confusément du côté de la démocratie participative, que les élus locaux connaissent bien, avec les défauts et les qualités de cette démocratie représentative. Et puis, oui, ils sont fortement demandeurs, quelle que soit leur tendance, de la démocratie directe du référendum. Et au fond, ils ne comprennent pas tellement que la classe politique ait été gelée sur place par l'échec de 2005. Et au fond, ils demandent à ce que, en particulier, le référendum, on va peut-être y arriver, le référendum d'initiative partagée qui est prévu dans le dispositif constitutionnel soit assoupli pour qu'on puisse l'utiliser de manière plus fréquente, puisqu'on ne l'a jamais utilisé jusqu'à maintenant.
Oui, et vous, maire de Morlaix, Agnès Lebrun, vous vous inscrivez justement dans ce mouvement d'accompagnement, ce mouvement de construction. Hein. C'est vous aussi qui, qui faites les choses au quotidien.
Bien sûr, nous aussi, nous devons évoluer, et ce serait vraiment, évidemment, une triste nouvelle que nous ne soyons pas en capacité d'évoluer au bout de deux ou d'un mandat même. Par contre, moi, je voudrais donner un autre chiffre qui me semble très intéressant et sur lequel on n'a pas suffisamment eu d'attention, à mon avis, c'est que les municipales de 2014, on avait 40% d'abstention. Et la démocratie représentative, finalement, c'est quelque chose de tout à fait simple. Un citoyen se déplace et par le biais de l'isoloir et de l'urne, délègue à quelqu'un pour décider à sa place. Il y a un pacte de confiance. Et c'est très simple. Pourquoi c'est très simple? Parce qu'au bout du mandat, si la confiance est rompue, on est dégagé et c'est très bien comme ça. Sauf que ces 40% ont finalement... fait nappe d'huile en quelque sorte, on fait tache d'huile. Et la confiance, elle s'est effritée. Elle ne s'est pas rompue directement, mais elle s'est effritée. Et là, c'est peut-être un petit point, non pas de divergence, mais il y a quelque chose avec quoi je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que je pense qu'on est dans une société où les gens sont à la fois très avides de solidarité, mais incroyablement individualistes. Et on voit l'émergence d'un nouveau type de citoyen qui à la fois est consommateur, et dans le même temps, peut se revendiquer d'une démocratie participative. Et je pense que cette démocratie participative entraînera tout le monde dans le gouffre. Pas parce que je ne souhaite pas que la parole des citoyens soit entendue, bien évidemment. Mais parce que la démocratie participative, on l'a vu, ce sont les déçus des urnes qui font du lobby pour s'emparer de groupes de pression. Ce sont des gens qui ont des fortes personnalités, pour ne pas dire qu'ils sont forts en gueule, et qui parlent au nom des autres, alors même qu'eux-mêmes ne savent pas exactement ce qu'ils veulent dire. La démocratie, moi, qui me semble être pouvoir être une nouvelle émergence de la citoyenneté, c'est la démocratie implicative. C'est-à-dire qu'il y a les engagés, ceux qui ont un mandat, et autour, il y aurait des commissions extra-municipales, peu importe la forme que cela prend, mais un groupe de citoyens, parce que l'engagement, on l'a vu, un maire sur deux ne voulait pas se représenter, parce que l'engagement est chronophage, parce que c'est très exigeant.
C'est intéressant, c'est ce que vous retenez aussi de toutes ces...
Bien sûr, bien, il y aurait un deuxième rang, en quelque sorte, de citoyens impliqués, qui seraient intermédiaires entre les administrés et les élus engagés.
10 secondes pour conclure.
D'ailleurs, si vous voulez, je partage ce diagnostic. La démocratie participative, il y a une dimension complètement utopique et il ne faut pas attendre d'elle plus qu'elle ne peut donner. Et parfois, c'est vrai, c'est la démocratie de minorités actives qui ne représentent souvent qu'eux-mêmes. Donc, il y a en effet à ressusciter ce qu'on appelait jadis la démocratie consultative, avec des citoyens qui sont des citoyens, en effet, engagés, intéressés, qui ont envie de donner d'abord de leur temps. Parce que la démocratie, c'est beaucoup de temps.
On va envoyer Le Grand Écart, votre livre, à tous les élus concernés. Pascal Perrineau, c'est chez Plon. A tout de suite avec Agnès Lebrun. Quelques minutes encore pour débriefer l'actualité.
19h48, le grand débrief de l'actu se poursuit avec vous, Wendy Bouchard, et vos invités. Agnès Lebrun, maire de Morlaix, vice-présidente et porte-parole de l'Association des maires de France. Et puis le politologue Pascal Perrineau, qui fait paraître chez Plon Le Grand Écart, chronique d'une démocratie fragmentée.
On a parlé des maires, de la responsabilité des élus, de la position présidentielle et dans l'actualité, ne mettons pas ces éclats de voix hier à la marche Nous Toutes, un peu partout en France. Demain, le gouvernement qui rendra les conclusions du Grenelle sur les violences conjugales. 3 mois d'échanges, de rapports de terrain pour mettre fin à ces drames. On est dans cette démocratie consultative qui embarque aussi les associations qui essayent de faire émerger des solutions ensemble. Alors parfois, on dit que ça prend beaucoup et trop de temps face à l'urgence de l'action, Pascal Perrineau.
Le Grenelle, d'ailleurs, qui trouvera son terme demain, a été un processus, en effet, consultatif, implicatif sur ce drame des violences conjugales. Ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé hier, c'est la mobilisation élevée. Presque 50 000 manifestants à Paris, ça n'est pas rien sur ce type de cause. Plus toute une série de défilés dans beaucoup de villes de province, où il y avait bien sûr des effectifs plus modérés. Cela montre que ça n'est pas un conflit considéré comme marginal dans la société française. Les citoyennes, au premier chef, mais aussi les citoyens, heureusement, s'emparent de cette affaire.
Ça s'est produit aussi, ces marches de solidarité, alors peut-être pas à Morlaix, mais en tout cas dans le Finistère ou en Bretagne.
Oui, évidemment, la Bretagne n'est pas épargnée. Ma ville n'est pas épargnée, d'ailleurs. Et les maires sont tout à fait aux côtés des associations dans une interaction constructive pour que... Je crois d'abord pour qu'on arrête de confondre et qu'on dise aux gens qu'il ne faut pas confondre le civisme et la délation.
Parce que, dans cette société de vigilance qu'on veut
exactement.
Construire.
Exactement. Ouais. Et c'est incroyable de voir le nombre de gens, des médecins, qui vous disent « Mais oui, mais moi je ne savais pas trop s'il fallait que je le dise, s'il ne fallait pas que je le dise. » Le policier qui dit évidemment à la femme battue qu'elle doit être prise en charge par une assistante sociale, mais qui la laisse partir et fermer la porte du commissariat sans savoir ce qui va se passer derrière. Et tous les services et toutes les associations, finalement, cette prise de conscience collective que le civisme, c'est de dénoncer, mais que de dénoncer, ça n'est pas la même chose que la délation. Je pense que là, on aura franchi un pas immense s'il s'assortit d'une réponse pénale juste.
Et on est vraiment dans ce discours-là, on rompt l'individualisme, on est dans une solidarité. Voilà pourquoi Emmanuel Macron parle du besoin de l'engagement de chacun pour ne rien laisser passer, aussi bien pour ces violences que pour la lutte contre le terrorisme et la radicalisation.
Bien sûr, tout à fait. C'est pour ça que cette société de vigilance, il faut bien déterminer son contenu et se persuader que dénoncer des situations scandaleuses, ça fait partie du civisme fondamental.
Pascal Perrineau, merci pour votre présence. J'enjoins tous les auditeurs qui nous font confiance à lire ce Grand Écart parce que c'est une expérience de vie qu'un grand politologue relate dans ses pages chez Plon. Merci beaucoup. J'étais ravie de vous rencontrer, Agnès Lebrun, maire de Morlaix, vice-présidente de l'Association des maires de France. Vous en êtes la porte-parole. Et on comprend pourquoi, si je peux me permettre. Merci beaucoup.
Merci.
Et à tout de suite pour Les Temps Changent avec François Claus. Merci à vous.
Découvrez des paysages à couper le souffle. Traversez un désert, des plaines enneigées. Ou emmenez vos enfants à leur cours d'équitation. Et si vous faisiez de chaque jour une aventure? En ce moment, chez Land Rover, ce sont les instants décisifs. Des véhicules disponibles immédiatement et jusqu'à 10 000 euros d'avantages clients. Rendez-vous chez votre concessionnaire Land Rover et bénéficiez de conditions exceptionnelles pour vivre l'aventure dès maintenant.
Land Rover.
Exemple pour un Land Rover Velar jusqu'au 31 décembre dans le réseau participant et selon configuration en stock. Conditions sur landrover.fr.
Le Monde et Télérama vous donnent rendez-vous au START, le salon des formations artistiques. De nombreuses écoles et des conférences vous aideront à choisir votre formation. Le START, les 30 novembre et 1er décembre, de 10h à 18h au 104 à Paris. Inscription gratuite sur le-start.com.
Il existe 42 régimes de retraite différents. 42 ? Et si nous inventions un système universel ?
Repensons ensemble un système de retraite simple, juste et solidaire. Participez sur consultationretraite.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
Méné. Allez, c'est moi qui t'emmène, on part en montagne.
Non, viens, on fait un tour en ville. C'est beau une ville la nuit.
Hé, imagine, 4 roues motrices sur la neige.
Mais profitez de mon silence.
De mes kilomètres illimités.
De mes zéro émissions.
Je sais que tu es électrique, mais moi, je suis fun à conduire.
Je suis fun à conduire.
Mettez fin au débat. Mini Countryman hybride rechargeable, un moteur thermique, un moteur électrique et une technologie qui les réconcilie pour vous. Affirmez votre côté hybride.
Méné. Si je te dis porte blindée et réseau de serrurier agréé, tu me réponds ?
Point fort fiché, bien sûr.
Eh bien, du 12 au 30 novembre, Point fort fiché fête Noël et t'offre jusqu'à 600 euros de remise sur les portes blindées d'appartements et de maisons.
Voir conditions en magasin et sur fiché-pointfort.com.
Point fort fiché, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Le mot de la fin, Wendy, sera donc pour François Claus.
Étanchant. 3-0 pour le Paris Saint-Germain, c'est une addition terrible pour le Real Madrid.
Beaucoup ont brûlé, ont été détruites par les guerres, les révolutions, les fautes des hommes.
We kids shouldn't have to do this.
On est assis sur une poudrière parce que les gens, ils ont peur.
Europe 1, l'air du temps. François Claus.
Et au cœur de l'actualité, votre ressenti et vos mots. Bonsoir François Claus.
Bonsoir Wendy. C'est un vieux monsieur, c'est ainsi qu'elle le qualifie. Il a 84 ans. C'est une jeune femme, elle a 30 ans. Il dit, elle me dit femme, elle m'injurie, elle me traite de menteur. Elle répond, Je dis l'exacte vérité, j'aurais accepté des excuses. Au lieu de cela, il m'insulte et me traite de menteuse. Deux élèves devant le maître après la récré, deux employés devant la DRH après le café. Non, non, 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris. Le vieux monsieur est avocat, la jeune femme est écrivaine. Il s'appelle Pierre Jox, elle s'appelle Alexandra Besson. Il était 14h lundi dernier au tribunal de grande instance de Paris, troublant flashback. 9 ans en arrière, l'opéra Bastille, représentation de l'Or du Rhin de Wagner. Le rang 15, celui réservé aux gens importants. Alexandra Besson a 26 ans, elle est fille de ministre, monsieur Éric Besson. Son voisin, accompagné de sa femme, elle ne le reconnaîtra pas sur le coup, est un ancien ministre. Sur son blog, Alexandra Besson raconte. Sa main soudain effleure ma jambe, je pense qu'il cherche la coudoir, mais il insiste. Des pressions de plus en plus fortes sur ma cuisse, jusqu'à l'entrejambe. J'irai jusqu'à griffer cette main pour l'éloigner. Bouleversée, la jeune femme raconte tout à son papa, qui vient la chercher dès la fin de la représentation. Il la pousse à porter plainte, mais voilà, lui est ministre en exercice, elle, étudiante à l'école normale supérieure, mieux vaut se taire. 7 ans de silence. Jusqu'à cette vague MeToo qui soudain submerge la toile. Impossible de ne pas être solidaire de celles qui se dévoilent pour exprimer leur vérité. Alors, Alexandra écrit, elle raconte, 7 ans après. Le vieux monsieur, lui, ne comprend pas. Il évoque une affabulation totale, un terrible mensonge diffamatoire. Il saisit la justice. Vous pourrez lire dans le journal Le Monde, en date de mercredi dernier, le compte-rendu d'audience signé de l'excellente chroniqueuse Pascal Robert-Diard. Lui, tout en dignité atteinte, lui, ancien président du Conseil d'État, ancien membre du Conseil constitutionnel, lui, icône de la République, comme dira son avocat, arc-bouté sur ses dénégations. Elle, en face, arc-bouté sur son récit, sa vérité, soutenue par sa famille, présente dans la salle du tribunal. Oui, la présomption d'innocence existe, mais pourquoi ne pas tenir compte de la présomption de vérité quand quelqu'un décide de témoigner, dit-elle. Sentiment de trouble profond qui se dégage de ce face-à-face, comme s'il ne pouvait y avoir de vérité grise. Oui, dans cette affaire, c'est ou tout noir ou tout blanc, l'un des deux ment. Le trouble aussi, parce que forcément des images resurgissent lorsque le mensonge s'installe. L'image, par exemple, de cet autre vieux monsieur qui sort en larmes de prison après avoir été injustement condamné pour agression sexuelle par son petit-fils, lequel finira par admettre qu'il a tout inventé devant les policiers et les juges.
Je finis par comprendre des gens qui se sont suicidés sur des affaires comme ça. Non seulement on porte l'infamie sur le dos, on perd tout, et puis je vois souffrir autour de moi ma femme, ma fille, mes enfants, mes petits-enfants. Je me dis, mais il faut que ça s'arrête.
Le maire de Vence, Christian Iacono, qui en fera un livre, Le Mensonge, que France 2 adaptera d'ailleurs dans quelques semaines avec Daniel Auteuil dans le rôle-titre. Même trouble, Wendy, quand ressurgit du passé cette autre image, lorsque le mensonge, là encore, s'installe.
Je démens catégoriquement. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant.
Le ministre Cahuzac, enfermé jusqu'au plus profond de lui-même, dans le déni, refusant de tomber de son piédestal de tout-puissant. La seule certitude, Wendy, c'est qu'un tel procès n'aurait sans doute jamais eu lieu il y a seulement 3 ans, avant la vague MeToo. La vague de cette parole libérée qui a fait tomber cette semaine de son trône l'intouchable fils d'une reine d'Angleterre. La vague aussi qui inquiète, qui transforme en tribunal permanent cette toile universelle. Aussi troublante que fut l'audience de lundi dernier, il y aurait presque quelque chose de rassurant qu'entre le vieux monsieur et la jeune femme, ce soit un juge, un vrai, qui arbitre, un juge qui s'est donné 2 mois de réflexion pour trancher. Ça les vaut bien quand il s'agit, au-delà des faits, rien que des faits, de sonder les tréfonds de l'âme humaine.
Les temps changent. Merci pour ces mots de nouveau. François Claus dans ce 18-20. Merci à Naïma Benchemane, à Kevin Ousti, à Marlène Duret, à Fabien Lecoeuvre d'assurer à chaque fois ce grand journal. Dans un instant, Lionel Rosso, le studio des légendes. À la semaine prochaine, chers amis. Merci.